Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité.
Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi.
Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains.
Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs.
L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés.
On appelle ça l'altruisme intéressé.
Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 6. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Alors, je vous invite aussi, si vous souhaitez nous soutenir, à nous faire des dons en crypto-monnaie exclusivement, plus particulièrement en Monero. Tout est expliqué sur le site, sur la partie droite, si vous souhaitez nous soutenir, nous permettre de continuer. Comme vous le savez, je l'ai indiqué ces dernières semaines, nous aimerions rassembler les fonds nécessaires pour pouvoir créer une section commentaire à part entière, qui soit au niveau. Donc n'hésitez pas à nous soutenir par Monero. Nous avons reçu un don au moins cette semaine, en tout cas il y a au moins une personne qui s'est manifestée après nous avoir fait un petit envoi d'argent, c'est Ed. Je profite du renouvellement de mon VPN pour vous faire un petit don d'un Monero en guise de soutien pour la qualité et la constance de votre travail. Merci Ed, ça nous fait très plaisir. Que tu nous soutiennes et avec toi tous ceux qui ne se manifestent pas et qui nous soutiennent aussi. Je procède à la présentation des membres de notre équipe de cette semaine. Je commence sans transition avec Pierrot. Pierrot a été très occupé cette semaine, mais il nous fait le plaisir d'être là malgré tout. Salut Pierrot.
Salut Gandalf, bah écoute, merci de m'inviter à chaque fois et bonjour à tous.
Fulbert est avec nous cette semaine, le plus national-socialiste des Belges. Comment vas-tu, cher camarade?
Eh bien, je vais bien. Merci Gandalf, bonjour à toi et à tous.
Merci, merci. Est avec nous aussi Diabolix, qui remporte un vrai succès d'estime, je dois le dire. Je reçois des courriers tout le temps en ce sens-là. C'est quand même très positif, cher Diabolix.
Merci beaucoup, merci.
C'est, oh, il est tout timide, il est tout humble et tout, oh, il est mignon.
Mais oui.
Et enfin...
J'ai la larme à l'œil.
Ouf. Et enfin, notre guide, j'allais dire notre étoile polaire spirituelle, celle qui rayonne sur notre émission.
Sigmar Polaris.
Voilà, Sigmar Polaris qui nous amène hein, vers l'éternité, quelque part. Comment allez-vous, cher Derek?
Ah oui, vers l'éternité, nous allons très bien. Encore une fois, aujourd'hui, notre religion, notre absolu, oui, va être...
À l'honneur.
À l'honneur. Hein, nous sommes une émission scientifique et religieuse, et voilà, nous serons à la pointe aujourd'hui.
D'édification du peuple de Dieu. Présentation de nos membres est faite, donc je commence avec la rubrique numéro 1, question-réponse. Alors des fois, des auditeurs ont une question, ou au contraire, une remarque, une précision. Première réponse, et ça c'est signé la femelle blanche. Et c'est celle qui nous avait écrit depuis la Réunion. Depuis la Réunion. Bonjour à vous, j'ai écouté votre nouvelle émission, je vous remercie d'avoir lu mon courrier. Je suis agréablement étonné par la culture extraordinaire de Diabolix sur le sujet. Vous avez parfaitement décrit la situation à La Réunion. Rien n'est acheté. Vraiment, vous avez tout dit. Tout le monde se hait ici. Quand je fais mes courses, je n'entends jamais un mot de français. Ils parlent nègre entre eux. Plus les jours passent, plus j'ai la haine. Et Diabolix a parfaitement raison. Lorsque ce caillou ne sera plus perfusé par le billet d'argent blanc français, les blancs finiront tous la tête sur une pique. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. La mienne y sera aussi, mais j'espère bien me barrer avant. J'ai bien compris le conseil de Diabolix. Tiens, beau largue. Tiens, beau, largue, pas le corps, qui signifie courage en vrai français. Bien à vous. Bon, Diabolix, excuse-moi, je suis pas versé dans le sabir de la Réunion, mais alors ta sapience impressionne.
Ou cause point créole, mon noir.
Oh putain.
Voilà, on a un spécialiste du créole maintenant.
Voilà.
Voilà, alors là, ça impressionne.
Ceci dit. C'est valable pour tous les départements d'outre-mer. Il faut bien se rendre compte que à partir du moment où la manne céleste de l'Hexagone sera tarie, je vous explique pas l'ambiance pour ceux qui sont dans les îles.
Oui, j'avais compris que ça avait vocation en fait, enfin que c'était une, ce que toutes les explications que tu avais fournies pour la Réunion avaient vocation à, enfin pouvaient être dupliquées pour à peu près tous les cailloux. Guyane, Martinique, enfin oui, tout à fait. Hein. C'est comme ça que je l'avais compris aussi. Hein. Je verrais bien un petit scénario haïtien hein, pour la Martinique. Hein. Vous savez, une révolte.
Oh oui.
D'ailleurs, vous vous rappelez lorsque le cyclone avait frappé Saint-Martin?
Oui. Oui.
Bon, on avait quand même vu des scènes où des bandes de nègres. Où des bandes de nègres arrivaient et défendaient leur position, enfin comment dire, lançaient l'assaut sur les habitations désertées ou pratiquement désertées avec des gendarmes qui devaient faire ouvrir le feu sur donc sur les sujets de la France. Hein, bon.
Moi, ce que j'ai beaucoup noté là ces derniers temps, c'est avec l'histoire des grèves, c'est que alors, je crois que c'est particulièrement vrai à La Réunion et en Guadeloupe. Les types, dès qu'il s'agit de ne pas travailler, mais rien foutre, ils sont là, quoi. Hein. Nous, ça vous le plus d'argent. Hein. Voilà, ils veulent plus
de... Ah, mais
ils
bloquent tous les ronds-points. Hein.
Ah ouais, c'est ça, c'est ça.
Où ça va devenir vachement rigolo, c'est qu'il y a quelques années, dans la bonne ville du port, il y a eu des cambriolages. Ils ont ouvert des conteneurs, ils les ont vidés. Il y avait un conteneur qui était plein de blindicides, de lance-roquettes. On les a jamais retrouvés. Le jour où les gars vont s'amuser avec ça, je vous explique pas le beau feu d'artifice que ça va faire.
Courage à la gendarmerie française qui va avoir du boulot. Va savoir ce qu'ils en ont fait. Alors, en tout cas, bon, merci à notre auditrice de La Réunion à laquelle on souhaite vraiment beaucoup de courage. Qu'elle déprime pas, qu'elle tienne bon, elle arrivera à s'en sortir. Deuxième réponse, auditeur. Alors là, c'est Alexandre hein, qui nous écrit et qui nous dit ceci. Grand fan de votre site et fervent défenseur de notre liberté au même titre que vous, c'est avec grand plaisir que je souhaite participer à la cartographie. Oui, c'est vrai qu'on nous voyageons en France et nous demandons... il va falloir qu'on mette en place définitivement cette section guide raciale des villes françaises. Il faut qu'on s'y attelle, là. Donc je poursuis son courrier. Donc avec grand plaisir que je souhaite participer à la cartographie. J'habite dans le vignoble nantais, qui comprend des villes comme Valais, Clisson et d'autres encore. Les vignes semblent préserver nos villes des ethnies qui pensent que l'alcool c'est pour les mécréants. Gloire aux muscadets. De ce fait, peu de bougnoules et peu de nègres. Le si peu que vous croiserez rasera les murs, rendant les environs vraiment intéressants à visiter. Bien à vous. Donc là, on a... j'ai remarqué, on a plusieurs auditeurs hein, dans le secteur du pays nantais, ou un peu de Vendée aussi. Et bon, on avait eu des courriers là-dessus assez détaillés, donc voilà. Mais donc voilà, si vous avez envie de faire fonctionner l'économie du terroir français, bah, le vignoble nantais vous attend, messieurs. Si jamais vous avez peut-être... Des projets de visite, voilà. Apparemment, ça a l'air d'être ethniquement préservé, ce que confirme d'autres courriers qu'on avait reçus ensemble. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus, sur notre petite aventure cartographique?
C'est préservé, oui, jusqu'à quand?
Ah bah oui, c'était la...
C'était un peu l'essence des courriers qu'on avait reçus, quoi. Hein. C'était voilà. C'est... Tout à fait. Alors, donc rubrique numéro 2, messieurs. Là, c'est courrier des lecteurs. On rentre dans le vif du sujet. Bonjour, cher Gandalf. Bonjour, toute l'équipe. En plus de mon travail, je fais quelques soirées musicales de ci, de là, qui me permettent de gagner pas mal de sous si on regarde la somme payée par heure. Disons, ça paye mieux que de faire des heures supplémentaires dans mon entreprise. À l'heure où je vous écris, je suis dans une salle de fête, dans une ville, dans une petite ville, où j'ai rendez-vous avec une dame pour se mettre d'accord sur le contenu de la soirée musicale. Temps à jouer, type de musique, matériel, rémunération, etc. On se met d'accord assez rapidement, puis la dame me propose de rester, car ce soir il y a un bingo, appelé loto dans d'autres villes. Ça ne m'intéresse guère, mais pour faire bonne figure, je lui dis que je vais rester un petit peu et que je partirai à la pause pour ne pas faire tard, car je travaille le lendemain. Autour de moi, je dirais 2/3 de personnes de plus de 50 ans, disons que l'ambiance est plus jeune que celle à laquelle je m'attendais. Désolé d'avoir été long pour l'introduction, le principal du pourquoi de mon écrit arrive dans l'instant. Cette espèce de vieille rombière pompeuse de singe humain nous explique en prologue de soirée que l'argent récupéré ce soir-là ira pour une association. Bien, une association pour les quatre mains malentendants du Burkina Faso. Ah, elle rajoute, je cite, « Évidemment, en France, il y a également des malentendants, mais ceux-ci sont pris en charge par l'État français. Mais là-bas, ben non. » Les gens applaudissent. J'ai alors le cœur qui monte. Une envie de voir surgir Tonton Adolphe me vient alors comme un souhait profond de salvation. Elle continue. Nous avons là-bas 5 professeurs, mais attention, rémunérés par le Burkina Faso. Cependant, nous leur payons les infrastructures et matériels dont ils ont besoin pour aider ces pauvres petits-enfants des pays en voie de développement. Les gens applaudissent de nouveau. J'attends quelques minutes. Donc là, en fait, elle s'exprime à la tribune. Hein. J'attends quelques minutes, je donne mes 2 planches de bingo loto à une maman avec son petit qui sont assis à côté de moi. Je me lève et prétexte gentiment de devoir y aller. Pour moi, ce soir-là, même si je suis au fait que ces gens existent, une fois de plus, la Terre a cessé de tourner durant un instant. Adolphe, t'aurais pu au moins finir le boulot. Et c'est signé Dante, un démocrate participatif. Alors là, c'est simplement une petite anecdote de vie. C'est quand vous retrouvez dans un loto associatif de vieux pour envoyer du pognon à des nègres en Afrique, parce que les nègres sont pétés en Afrique, mais rassurez-vous, le pays est en voie de développement. J'ai appris que le Burkina Faso est en voie de développement, je ne savais pas, moi, mais bon.
Oh oui, ça veut dire, si vous mettez plus de fric, ça va se développer, hein, on y croit tous, voilà. Et ça me fait penser à cette histoire qu'on avait relayée sur DP, vous savez, la France qui a balancé 850 000 euros à Abidjan, en Côte d'Ivoire, quand Macron s'était déplacé là-haut pour construire un complexe sportif.
Ah oui, j'avais oublié ça. C'est vrai qu'on compte plus, hein, donc on perd un peu vite la...
Oui, ça c'est quelques milliers d'euros, c'est pas beaucoup. On va quand même faire le je sais pas si le tramway ou le métro de Dakar, je crois. Hein, donc c'est encore plus costaud. Mais là, oui, ce que dit notre auditeur, c'est que les Français obligent, torturent ces braves Burkinabés pour qu'ils subviennent aux besoins des sourds, quoi. Enfin, des gens qui...
ils mettent la pression sur le Burkina Faso pour s'occuper des sourds.
Oui, c'est-à-dire que ces cons de boomers encouragent le disdainisme au niveau des nègres. Des nègres qui ne sont pas particulièrement bien lotis au niveau de la génétique sur pas mal de trucs. Mmh. Donc, en plus de ça, ils veulent que les nègres... Enfin, que la surdité se développe chez les nègres.
Là, il faut aider les sourds.
Ouais, c'est...
Non, mais c'est quand même, on est au cœur du problème, l'air de rien. Bon, c'est anecdotique.
Bah, la religion, c'est spirituel, quoi.
Ouais.
Il faut faire du bien, alors le...
Non,
c'est les nègres, et parmi les nègres, les handicapés nègres. Ah, vous voyez, voilà, je donne aux handicapés nègres, donc je suis une bonne personne.
C'est fait pour capter du fric, c'est tout. Tu peux être certain que les gars au Burkina ou n'importe où ailleurs, ils verront jamais un rond.
Si.
Si, si, dans les grosses structures, ils touchent rien. Mais par contre, dans les petits machins comme ça, artisanaux, si, si, le pognon y va, hein. J'en suis à peu près sûr, hein.
Mais comment dire, non, c'est pas une histoire uniquement de pauvreté, parce que des bleds pauvres dans le monde, t'en as un sacré paquet, hein, je veux dire. Et vous avez qu'à remarquer qu'ils vont, ils vont pas en pérégrination au Laos. Non, c'est quand même toujours le nègre. Donc il y a autre chose derrière, et c'est en fait ce besoin de parce qu'il y a dans l'imaginaire des boomers, le nègre est l'éternel enfant, en fait. Et ces gens-là veulent jouer à la poupée, quoi. C'est leur fibre paternaliste qui s'exprime. Ils ont besoin de torcher le cul de nègre, quoi. Vous avez qu'à remarquer. Prenez, comment dirais-je, le PNB de l'Algérie. Vous croyez que les Algériens, par tête de pipe, sont beaucoup plus riches que des pays africains? C'est pas vrai. Pourtant, est-ce que vous entendez voir des gens faire des lotos pour se cotiser pour aider les Algériens? Vous entendez pratiquement jamais. Pratiquement, vous n'entendez parler de ça. C'est toujours pour des nègres. Ça traduit des choses, ça traduit des choses dans l'inconscient des gens, des personnes concernées.
C'est la même chose que. Enfin, c'est pour ça que dans les zoos, on met des panneaux de nourrissez pas les animaux. C'est pareil, c'est-à-dire que tu vois, les boomers, dès qu'ils voient un nègre, il faut qu'ils lui filent du fric pour améliorer son existence. Tu vois, parce que
Oui, mais en
c'est
plus.
comme ça que ça marche.
Vraiment, on est dans un rapport vraiment qu'on peut qualifier. Enfin, là, on entre dans la folie clinique. Parce que c'est pas comme si ça faisait pas plus d'un siècle qu'on essayait de réparer les nègres. Ça fait 100 ans, plus de 100 ans. Et encore, je veux dire, on l'a fait du temps de la colonisation, carrément, en intervenant directement, en créant des infrastructures sanitaires, etc. Enfin, je veux dire, tout a été tenté. Il y a, je sais plus, l'équivalent, j'avais les chiffres d'ailleurs, mais c'est l'équivalent de plusieurs plans Marshall qui ont été déversés sur l'Afrique ces 50 dernières années au titre de l'aide au développement. C'est une manne extraordinaire qui a été déversée sur l'Afrique, hein, avec des dizaines et des dizaines de milliards de dollars. Ça ne peut rien produire. Et vous vous dites, bon, au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui vont tirer des... Non! Non! Ça continue. Et non seulement l'aide publique, ouais, l'aide publique ou parapublique continue, mais vous avez donc des vieux comme ça qui, sur leur temps libre, organisent des trucs pour écrémer des comptes bancaires pour rajouter au pognon qu'on envoie déjà. C'est-à-dire qu'il faut associer la charité privée à la charité publique. C'est incroyable. Et à aucun moment, les mecs se disent, mais à quoi ça sert ce qu'on fait? Ça sert à rien! Qu'un nègre entende ou n'entende pas, ça change rien. D'accord? Ah, par contre, les mêmes, hein, donc les boomers en question, donc les mêmes, hein, voilà, les vieux, là, machin, en 60 et quelques années, là, pour aller leur tirer 3 euros de la poche, hein, pour un petit blanc à côté de chez eux, vous allez voir comment les portefeuilles sont entourés de barbelés, hein. Ces gens ont des oursins dans les poches, hein.
Il n'y a pas besoin d'aller voir pour le petit blanc à côté, serait-ce que voir pour leurs petits-enfants. Ou leurs enfants même, hein, leurs enfants tout court. Hein. Donc leurs enfants ils sont indépendants, donc ils peuvent se débrouiller par eux-mêmes, donc on n'a pas besoin de leur filer un héritage, parce que l'héritage, quelque part, c'est perpétuer le privilège blanc. Donc, autant faire des croisières, hein, en Méditerranée. En ayant acheté des merdes au souk de Marrakech. C'est quand même beaucoup plus moral et beaucoup plus juste, hein, vu du point de vue de l'éternel.
Est-ce que vous pensez pas aussi que ces gens qui s'investissent un peu dans genre d'assos à la con, bah c'est tout simplement pour se racheter une conscience à peu de frais. Et là, je parle souvent des gens qui sont vraiment à la tête d'organisations comme ça, qui finalement, bah j'imagine qu'ils doivent avoir un peu une vie de merde, hein, tout simplement. Et si tu leur enlèves bah, l'association, bah ils sont dans le vide, quoi. Leur vie est creuse, et puis c'est juste un faire-valoir finalement. Et ça pourrait être l'association, je sais pas, des handicapés mentaux de Côte d'Ivoire, ça serait la même chose, qu'en fait ils s'en foutent je pense, du handicap en
Non,
question,
mais
du pays. C'est
oui,
une
t'as raison.
excuse.
T'as tout à fait raison, oui, bien sûr. C'est indéniable. Il y a un côté patronage là-dedans, évident.
Et puis bon, de toute façon, je voulais aussi revenir sur un point qui est fondamental, comme l'a évoqué Derrick, d'hygiénisme. Le handicap lourd, en Afrique en général, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'il y a une raison très simple, c'est que la personne qui est handicapée lourdement en Afrique, bah, c'est simple, elle ne survit pas. Elle meurt, tout simplement. Il n'y a pas, oui, pas d'État.
Leur projet, c'est...
Ça s'appelle les enfants serpents. Les enfants handicapés, ils ont été pris par le serpent de la rivière. Hein. C'est une manière tout à fait poétique de dire qu'on les a noyés. Mais bon, en tout cas, c'est drôlement efficace. Hein.
T'imagines que même les nègres comprennent les ressorts élémentaires de l'eugénisme.
Oui, c'est que même les nègres comprennent ce que certaines personnes, par charité, hein, je ne citerai pas, qui veulent voir proliférer les trisomiques, par exemple. Tu vois, même les nègres ont compris que bon, ça ne sert à rien. Le truc,
c'est pas un projet, ouais.
Déjà, ils sont. C'est pas comme s'ils avaient le choix. Nous, on a le choix, quelque part. Donc, je dis pas que. Je vais pas me prononcer sur le choix en question. Mais ils ont juste pas le choix. Ils ont pas la possibilité de pouvoir assumer cette charge.
Oui, mais justement, c'est là que des gens disent qu'ils ont le choix parce que peut-être que les Blancs pourraient les aider.
Ouais, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Mais c'est débile, quoi.
Je suis certain qu'il doit y avoir plusieurs lotos en France. Pour collecter du fric pour le bien-être des trisomiques au Centrafrique.
C'est évident.
Ça doit exister particulièrement en Bretagne, je pense.
Et moi, j'élargis un peu le débat.
Il doit y avoir des fanatiques dans ces contrées-là.
Ça
vaut particulièrement dévotes à notre Dieu.
Oui, c'est vrai.
J'élargis un peu le débat et je voudrais mettre en garde les auditeurs sur des mots-clés comme ça que vous entendez, genre association caritative, quand vous entendez ce genre de truc, essayez de creuser un peu plus pour savoir de quoi... Souvent, vous savez, les entreprises, elles font des concours, des trucs comme ça pour des assos caritatives ou même des assos eux-mêmes qui font des dons, des trucs pour d'autres assos. Essayez de creuser un peu, savoir quel genre d'assos va vraiment toucher le pognon à la fin. Et vous serez quand même choqué de voir à chaque fois le mot-clé « Afrique » qui revient très très souvent, quoi. Et c'est devenu maintenant très très courant, voilà. Et ça m'enchante pas des masses.
Ouais, c'est tout un business pour les très grandes entités. Hein. C'est un business, le business de l'humanitaire. Mais vous avez des initiatives locales du type là qu'on a cité. Là, par contre, c'est vraiment des fanatiques qui vont sur place, etc. Enfin, c'est quelqu'un d'autre là-dessus? D'accord. Deuxième courrier. Bonjour à toute l'équipe de Démocratie Participative. Je fais suite à votre demande à la dernière émission, saison 5, épisode 5, de récupérer des témoignages de personnes travaillant dans le monde des hôpitaux psychiatriques. Voici le mien. En préambule, veuillez m'excuser si mon orthographe ou ma grammaire sont un peu laborieux. Je n'ai pas l'habitude de cet exercice. Je suis une infirmière d'une trentaine d'années ayant environ 7 ans d'expérience dans le domaine. C'est relativement peu, mais cela m'a permis de recueillir suffisamment de matière pour vous fournir ce témoignage. J'habite dans une petite ville, dans un département rural, donc relativement préservé de nos chères chances pour la France. Les problèmes liés à l'invasion négro-bougnoulique sont encore assez rares, mais la tendance est à l'aggravation. Les patients que nous recevons en hôpital psychiatrique sont à 80% blancs, donc là encore dans un département rural et dans une petite ville. Hein. 80%, il y a déjà 20% de métèques dans un département rural pour les cas psychiatriques. On retrouve de tout. Du schizophrène bien délirant, au bipolaire flamboyant, en passant par la petite dépression saisonnière pour terminer avec les déchets biologiques, que sont les patients déficitaires profonds, qui feraient presque passer des nègres pour des ingénieurs. Et sur ce point-là, c'est sur ce point-là que je souhaite appuyer. Vous ne pouvez imaginer le gouffre à pognon que représentent ces personnes. Les patients déficitaires se caractérisent par un retard mental considérable, un QI mesuré entre 40 et 50, avec une forte intolérance à la frustration. Exemple concret. Donc là, c'est une situation typique avec ce type de personne. Je peux avoir du rap de patte ? Non, tu as eu ta part. Salope, je vais te défoncer. L'hôpital psychiatrique est le thermomètre qui indique la température du dysgénisme ambiant. Et je peux vous assurer que le mercure grimpe
en flèche. On reçoit des quantités de candidats bons pour l'action T4. Des bons à rien, même pas bons pour casser des cailloux. Par contre, en vue des droits du patient, ils pourront aller faire du poney, visiter des zoos animaliers, partir en vacances adaptées, véhiculer en taxi bien évidemment, et régler avec vos impôts, bien entendu. D'ailleurs, parlons finances. Le prix d'une journée dans un hôpital psychiatrique va de 500 euros à presque 2000 euros pour les services fermés. Pour un hôpital avec environ 300 lits, je vous laisse faire le calcul sur l'année. Parlons maintenant des bougnoules et autres nègres. Même s'ils étaient rares sous nos contrées, les pouvoirs publics, les associations et autres boomers nous les ramènent de plus en plus et la qualité est présente. Pour la petite histoire, la mairie socialiste de la ville, où elle exerce, a trouvé qu'il était utile et judicieux de faire venir des nègres des îles ici. Ah, ça fait le lien avec la Réunion. Au début, une demi-douzaine est venue, avec un responsable qui devait chapeauter le tout. S'en est suivi dégradation, violence urbaine, incivilité, etc. Quand le maire est allé voir le nègre en chef pour faire un bilan, le nègre s'est plaint que la communauté ne trouvait pas de travail, et du coup, on fait des bêtises, on s'ennuie là, dis-donc. Le maire s'est alors empressé de mettre fin à cette discrimination en achetant une dizaine de scooters pour les nègres. Pas besoin de faire un dessin. À part emmerder les passants sur scooters, les scooters n'ont servi à rien. Voilà comment un territoire préservé attrape le cancer. Passons aux anecdotes. Je me souviens particulièrement d'un Algérien, un débile à 52 QI qui a essayé de faire flamber trois églises, qui avait fait quelques mois de prison et qui avait été relâché. Eh bien, figurez-vous que cette espèce de face de dromadaire trisomique a essayé de cramer une quatrième église pour pouvoir retourner en prison. Il a atterri en psychiatrie où il est resté un mois environ avant de pouvoir retourner à son domicile et reprendre ses activités diverses et variées. Je me souviens encore d'un sale nègre qui a essayé de planter ma collègue avec un couteau pour une vulgaire contrariété. Bien heureusement, il a été transféré en service fermé où il a pu violer une pauvre débile mentale sans cervelle. Je me souviens encore d'un nègre débarqué tout droit de son Congo natal. Il a atterri en psychiatrie parce que totalement délirant et faisait un brouhaha monstre dans le petit village où une association d'aide aux migrants l'avait recueilli. Durant les entretiens avec le psychiatre, il avouera sans trop de remords être venu en France car, je cite, « il avait tué quelqu'un dans son pays et il valait mieux partir ».
Vous savez, vous, vos impôts, il n'y a pas de problème.
Quelle joie pour la France qui accueille un nouveau cotisant pour la retraite des boomers. J'ai côtoyé un jeune négrillon adopté en provenance d'Haïti. Il avait fait l'amour au cadavre de sa voisine de chambre qui venait visiblement de décéder quelques minutes auparavant. Le nègre était tellement con qu'il ne s'en est même pas aperçu donc qu'elle était décédée. La connerie de ce nègre est à toute épreuve. Je me souviens d'une anecdote le concernant. Je venais d'être embauché. Quand ce con vient me voir en me disant « Je ne suis pas content, je ne veux plus faire. » Il me montre sa bouche grande ouverte. Plus tard, j'apprendrai que ce génie taillait des pipes aux autres patients en échange de clopes qu'on ne lui donnait jamais.
C'est pas mal.
Oh bordel ! Oh là là. C'est trop français pour moi tout ça. Pouf.
Il doit fumer la pipe.
Le pire, ce sont les bougnoules intelligents. J'entends par là ceux qui ont 80 de QI. Certains d'ailleurs qu'on retrouve au Front National. Ils se pointent au service des urgences, font des menaces suicidaires pour se faire hospitaliser. Plusieurs cas possibles. Premièrement, il n'a plus assez d'argent pour payer son dealer et va se mettre au chaud en attendant que la prochaine allocation tombe pour pouvoir rembourser sa cam. Deuxièmement, c'est lui, le dealer, et l'hôpital psychiatrique représente un marché très juteux. Je pourrais continuer longtemps et vous distiller anecdote sur anecdote, mais j'ai peur d'être trop longue. Je voudrais juste préciser que les psychiatres sont pour 50%, donc les docteurs, hein, psychiatres sont pour 50% incompétents et 50% roumains. Vous me direz...
Quelle est la différence ?
Ah, je dis rien. Pour terminer, je voudrais aussi rappeler que tout ce beau monde qui peuple l'Arkham touche l'AAH, allocation adulte handicapé, environ 850 euros par mois, le tout pour acheter du tabac, de l'alcool et pour certains du shit. Tout ça pour vous dire que je suis fier de pouvoir payer mes impôts dans ce fabuleux pays. Je vous envoie tous mes voeux de bonheur et de victoire. Amitié Blanche, et c'est Eva B. qui nous écrit donc depuis Arkham. Depuis Arkham.
Oui, depuis l'Asie. Hein, c'est... La bah, écoute, merci Eva, merci pour ce courrier.
Merci.
Tout à fait représentatif de l'asile qu'est la France, hein, parce que apparemment on se demande s'il y a plus de fous dedans ou dehors, hein, de ces structures destinées à accueillir ces fous.
Alors nègres et arabes, en sachant qu'il y a des blancs aussi, mais nègres et arabes. Hein. Alors
les nègres baiseurs de cadavres. Ça, c'est
ah oui, les nègres baiseurs de cadavres. Et qui ne le savent pas.
Bah non, moi, il n'y a pas vu là. Hein. Moi,
pas bien vu, sûr, là. Ils ne savent pas, sinon ils le feraient quand même.
Alors, qui veut me parler, voilà,
ouais.
Pierrot.
Ouais, déjà, j'ai envie de dire merci, parce que c'est vrai que j'avais lancé cet appel qui me tient à cœur, et donc ça fait très plaisir d'avoir des réponses rapidement,
oui.
D'ailleurs.
Oui, ça
donc,
fait
merci
plaisir.
Merci beaucoup, ouais. D'être très réactif, d'être bien dans le sujet, en plus, c'est top. On sait maintenant où est-ce que... On savait déjà un peu... Hein. Où est-ce que vont nos impôts? Très bien.
Donc ça, oui, alors, aussi, ça me tient à cœur. Elle a donné des chiffres, hein, entre 500 voilà. euros pour voilà, un site, ça fait 300 lits. Elle dit voilà un site, 300 lits, 500 euros par lit et par jour. Pour les cas fermés, dans les cas extrêmes, là où il y a besoin de beaucoup de surveillance, 2000 euros par tête et par jour. Donc calculez, voilà. 60 000 euros pour un client en HP fermé, 60 000 euros par mois. Pour des nègres qui taillent des pipes pour des clopes sans les recevoir.
Ça, c'est des arguments qui font mouche généralement aux Français moyens. Moi, je suis pas national-socialiste pour des raisons économiques, d'accord ? Mais malheureusement, les gens ne sont pas comme moi, on va dire. Ou heureusement, peut-être heureusement pour eux. Et donc ça, c'est des arguments qui font mouche. Donc ça, c'est typiquement le genre d'informations très précises, merci encore. À populariser autour de vous. En plus, je pense que ça peut bien passer dans un débat entre un débat avec la famille. Ça, je vous invite à faire ça. Et puis donc, on voit quand même la limite de la psychiatrie française, parce que faut quand même rappeler que un débile léger en France, bah c'est quelqu'un qui doit normalement. C'est, bon, en France, c'est un peu compliqué, mais on va dire quelqu'un qui a un QI en dessous de 79. Normalement, c'est un débile léger, d'accord. Problème. Le QI moyen au Cameroun est de 70 points. Donc, si vous voulez, les débiles légers pour eux. Voilà. Donc, c'est assez commun. Voilà. Et donc, la psychiatrie française s'adapte bah, à ces nouveaux Français. Quoi. Et ne soyez pas étonnés si nous avons de plus en plus de cas psychiatriques dans les années à venir, parce que finalement, ce sont juste bah, des. Ils sont pas malades. Ce sont des Africains, tout simplement. Voilà.
Oui, d'ailleurs, la France a changé de doctrine en termes de psychiatrie. Maintenant, on passe dans les centres ouverts qu'on appelle les banlieues. Hein. Voilà, donc là, on... Parce qu'il y a trop de volume, quand même. Donc maintenant, on les laisse en liberté. Bon, Alors, moi, il y a un truc qui me fait un peu rire. C'est quand on parle d'hôpital psychiatrique, censément, c'est pour soigner. Alors, vous avez bien compris que les clients en question, on ne peut pas les soigner. J'espère que vous avez compris. Donc ça, c'est vraiment de la perte d'argent net. C'est autant d'argent... qui ne va pas profiter effectivement aux familles françaises, aux jeunes blancs, etc. Donc pensez-y hein, quand on vous dit oui on va fermer une école parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens dans telle ou telle commune. Pensez à ça, pensez aux sommes colossales qu'absorbent par exemple ces centres psychiatriques qui sont de plus en plus repeuplés par des métèques. Alors là c'est dans zone rurale, donc il y avait quand même 20% de métèques. Imaginez, on est en zone rurale, il y a 20% de métèques dans l'hôpital psychiatrique. Je vous laisse imaginer la situation dans des grandes villes, quoi. Bon, là, pas besoin de... Voilà, c'est... Là, ce
Disons,
n'est...
on peut soigner certains patients de leur
oui,
mot,
d'une dépression, quoi, par exemple.
Voilà, d'accord. Mais on peut pas soigner un Africain de son africanité. Ça lui colle à la peau, sans mauvais jeu de mots.
Non. L'Algérien schizophrène... qui a comme passion de brûler les églises, vous allez le soigner comment Non. D'abord, on appelle ça un bon musulman, pour commencer. Qui veut réagir sur ce courrier? Il y a plein d'aspects. Hein. Il y a l'aspect économique, il y a l'aspect clinique. Elle parle des psychiatres, elle dit des psychiatres. Il y a beaucoup de Roumains, ou beaucoup d'incompétents, dit-elle. Voilà, c'est... Apparemment, c'est pas un domaine qui a l'air d'attirer les vocations, visiblement. Je sais pas. Mais...
Bien franchement, qui serait intéressé à bosser dans le domaine des gogoles?
Ah ouais, non, mais c'est vrai. Si, peut-être pour les revenus ou la sécurité de l'emploi, etc. Mais quand t'es au quotidien, au contact avec des gens comme ça, c'est une vraie question. Comment, imagine déjà, vous êtes au contact des Algériens, des trucs, au quotidien. Déjà, pour garder son équilibre intérieur, c'est difficile. Hein. Mais imaginez avec l'élite donc de l'Afrique, concentrée dans un lieu fermé, et vous êtes au contact de ces gens-là, et vous devez garder votre équilibre psychologique. C'est pratiquement impossible. Pratiquement. Moi, j'admire cette infirmière, hein, honnêtement. J'admire cette infirmière, parce que rester au contact de ces gens-là, et parvenir quand même chaque jour à continuer à aller de l'avant, moi, je suis admiratif.
Gandalf, j'ai connu une nana qui s'occupait de ce genre de cas. Super mignonne, super intelligente. Elle a trouvé son job, je crois qu'elle avait dans les 22-23 ans. À 30 ans, elle était quasiment aussi débile que ses clients.
Mais elle faisait quoi? Elle était infirmière? Elle était psychiatre? Elle était psychologue?
Elle s'occupait, en fait, dans un asile psychiatrique, des cas lourds, en tant qu'infirmière. Mais bon, n'oublions pas une chose, c'est que l'infirmière se tape la majeure partie du boulot. Les toubibs voient leurs clients une fois de temps en temps. Ils signent des ordonnances et c'est elle qui devait gentiment se taper tout le travail. Donc voilà, la situation, c'est qu'à force de fréquenter des cons, on finit par le devenir.
Ouais, non, mais ça, y a un risque, hein, très réel. Qui d'autre là-dessus, Derek? Là, bon, on a un concentré là d'éternégritude stupéfiante.
Oui, bon, écoute, ça.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est difficile d'en parler.
Ça colle très bien, c'est l'esprit du temps.
Le truc, c'est que quand le nombre de nègres augmente de plus en plus rapidement en France. Et il est impossible. Je reprends l'expression, carottage. C'est un très bon carottage, ça. Parce qu'on sait que pour un en centre, en HP, vous en avez 100 ou 1000 dehors. C'est ça la réalité.
Oui, c'est-à-dire que le truc déborde déjà tellement que dans sa petite structure de la réalité, ouais. on est obligé de prendre. Ce qui déborde des cailloux, ouais. À merde que sont les dom-toms, hein,
ouais.
Les îles, là, les plus français que les Savoyards et que les Niçois. Hein,
Oui, français avant les Niçois.
Oui, voilà, la République, la France, tout ça, mes couilles et compagnie. C'est un bon thermomètre, ça te donne l'idée de ce que tu vas avoir 10-15 ans plus tard, puisque... c'est un échantillon c'est la crème, hein, c'est l'élite des nègres. Mais,
et des Algériens, n'oublie pas.
Et des Algériens, particulièrement à Marseille, effectivement, dans le sud.
Les futurs électeurs du Rassemblement National.
Ah, on dit le remplacement. Les Algériens,
oui, donc,
le remplacement national.
Remplacement avec Farid, je sais pas quoi.
Des sous.
Des Antillais, etc.
Envoyez des sous, ouais.
Oui, la banque...
Agen.
ouais,
non,
ouais,
mais, non, mais je, voilà, parle, je, parle de, je parle de carottage, parce que, comment dire, donc on sait que pour ceux qui sont...
C'est une vue à l'instant T de ce qui...
Voilà.
De la situation de la France, quoi, voilà.
Alors, à l'instant T4. Bah oui, oh, j'aimerais tellement.
Oui, oh.
Elle est belle. Mais comment dire, c'est un carottage, donc on sait qu'il y en a 100 ou 1000 fois plus en liberté. Mais notez bien, vous savez, là, dans l'exemple qu'elle nous dit, voilà, on a eu un Algérien qui a essayé de brûler 3 fois des églises, ou peut-être même avec succès, qu'on a mis en prison, et en fait, que les autorités, dont les autorités ne savent pas exactement s'il s'agit d'un cas psychiatrique ou en fait d'un Algérien, en fait, d'un musulman. Et là, ça m'a fait penser aussi, vous savez, au fameux déséquilibré. Hein, voilà, je prends ma bagnole, je crie à Allah Akbar pour me donner du courage, je percute des Français et le procureur intervient. Non, mais rassurez-vous, c'est un déséquilibré, rien à voir avec l'islam. Et en fait, comment dire, dans le cas de l'Algérien en question qu'elle cite, le type fait un séjour d'un mois. Toujours dans l'idée, c'est là qu'on voit la gestion catastrophique, quoi, avec les droits de l'homme et tout ça, c'est qu'en fait...
Il a été réparé par la République.
Voilà, il est réparé par la République.
Les droits de l'homme ont fait de ce fou un honnête citoyen.
Ouais, on le remet sur le marché. Il passe un mois dans le truc, on le remet sur le marché. À la quatrième tentative, vous voyez, à la quatrième tentative d'incendie d'église. On voit que le mec a une focalisation sur les églises. On a bien compris. Combien de types comme ça, en fait, parce que vous avez les islamistes qui sont des activistes et qui ont un projet très clairement établi, et puis vous avez ensuite toute la ribambelle d'auxiliaires foireux de l'islam dont ils se servent comme chair à canon, quoi, hein, qui d'ailleurs très naturellement commettent ce type d'action, quoi. Et là, je me dis, on a une photographie tout à fait intéressante, et ce qui ressort, c'est qu'en fait, ces mecs-là, on en entend parler quand on les met dans les hôpitaux psychiatriques, on en entend beaucoup moins parler quand ils en sortent. Et ils en sortent.
Mais il y a pire que ça. En fait, bon, t'arrives dans un hôpital psychiatrique, que font les psychiatres? Ils te bourrent de psychotropes. Donc en fait, grosso modo, t'es un mollusque pendant ta durée d'hospitalisation. Pourquoi? Parce que ça permet à l'hôpital de pomper le fric qui est alloué par la sécurité sociale. Et en plus, à partir du moment où tu es un légume, c'est clair que tu emmerdes beaucoup moins les gens. Il faut bien comprendre que pour une infirmière dans ce genre de milieu, c'est comme si tu étais un gardien de prison. Tu es sous tension permanente parce qu'à tout moment, ça peut partir en couille. Et ça peut partir en couille très gravement. Mais ça se limite à ça. À la limite, on pourrait prendre ces gars-là et les rebooter par électrochoc. Le problème, c'est qu'on ne peut plus faire d'électrochoc. Donc, les gars, une fois qu'ils sortent de là, s'ils oublient leur médoc, et c'est clair qu'ils l'oublieront très vite, ils reviennent exactement dans le même mode pathologique.
Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc, en fait, ce sont des garderies à cingler. Et... régulièrement, en fait, on déverse. Hein. On déverse. Hein. On remet en circulation. Qui d'autre là-dessus ou alors, mais peut-être qu'un d'entre vous a une interrogation, une question, vous les interrogez à haute voix ou faire une remarque. D'accord. Alors, j'ai un troisième courrier qui, là encore, traite de ce cas-là, hein. Donc c'est un complément, et on va voir ce qu'a à nous dire ce quoi. On remercie beaucoup Eva B, hein. Merci Eva, et beaucoup de courage à vous. Chers amis résistants, en réponse à votre appel lancé dans le dernier épisode de Démocratie Participative à propos des populations importées traitées en psychiatrie, je vous propose un état des lieux au plus près du terrain. Ayant été infirmier en psychiatrie durant une quinzaine d'années, j'ai effectué la majeure partie de ma carrière à Paris et en Île-de-France. Alors, on rentre dans le vif du sujet, messieurs. Vous doutez bien qu'une telle activité apporte son lot d'anecdotes surprenantes, amusantes et souvent hallucinantes, sans jeu de mots. J'éviterai, cela dit, de lister les cas les plus percutants, cela deviendrait vite rébarbatif, mais je tâcherai de vous donner une vision d'ensemble de ce à quoi ressemble le milieu psychiatrique actuel. Paris étant le cœur en fusion de la France, observer sa population soignée ne peut que piquer au vif quiconque possède un esprit racialiste. Concrètement, la psychiatrie française est dite sectorisée, c'est-à-dire qu'un patient sera hospitalisé dans une unité précise selon son lieu d'habitation. Par exemple, un arrondissement de Paris peut être découpé en un ou deux secteurs, possédant chacun un service dit fermé pour les patients en crise, un service dit ouvert, patient en cours de stabilisation, ainsi que diverses structures extra-hospitalières. Cela signifie donc qu'au sein d'une même unité se côtoient des patients qui ne se seraient probablement jamais connus en dehors, des plus riches aux plus pauvres, des plus jeunes adultes aux plus âgés, et donc aussi des plus français aux moins purs. Il est alors possible d'avoir le visu sur la population globale d'un arrondissement sans distinction de revenus, d'éducation et de race. Le constat est sans appel. Quel que soit l'arrondissement de Paris, les allogènes représentent la part majoritaire des patients hospitalisés. Ils sont d'ailleurs souvent aussi les patients les plus difficiles. Le portrait type est le suivant. Patient psychotique, possédant en plus des traits psychopathiques, ayant grandi dans des familles totalement défaillantes, intolérant à toute frustration, grand consommateur de THC et drogues diverses, avec antécédents judiciaires. Dans le jargon populaire, on appelle ça la racaille. Et oui, ces traits de caractère doivent vous rappeler les Momo et Mamadou que vous croisez au quotidien. En effet, les facteurs favorisants sont légion chez les populations importées, et un inventaire de leurs tares prévalents saura vous éclairer. Consanguinité maghrébine, surpopulation intrafamiliale, éducation rustre et sans stimulation intellectuelle, violence parentale, hyperactivité sexuelle mal maîtrisée, notion de famille mouvante sans place précise de l'individu, consommation de drogue, repères culturels totalement inadaptés à notre civilisation, parcours de vie parfois traumatique, contact à l'autre ou à autrui uniquement dans le rapport de force, etc. Sachez que les Maghrébins nous envoient continuellement les tarés qu'ils génèrent par le biais de leurs familles implantées en France. Comme nous ne pouvons refuser quiconque en besoin de soins, vous payez donc tous et toutes leurs hospitalisations et traitements, souvent à vie. Je me permets de vous informer qu'une journée en psychiatrie est facturée, alors là il nous donne un tarif, environ 1000 euros, il dit en moyenne, et que les traitements représentent bien souvent plusieurs centaines d'euros mensuels. Merci qui ? Il y a quelques années, lors du début de la crise dite des migrants, les unités fermées recevaient régulièrement des Africains ou Moyen-Orientaux hospitalisés suite à des passages à l'acte violents ou des troubles du comportement. Cela pouvait aller du crétin hurlant à la Akbar, devant une école maternelle avec un canif à la main, à l'abruti se jetant sur les militaires de Vigipirate, riche idée s'il en est, ou au craqueux désinhibé se promenant nu devant des gares parisiennes. Bref, le gratin de l'hémisphère sud se retrouvait, malgré lui et malgré nous, à être soigné, traité, parfois aidé par les assistantes sociales pour finir souvent dehors après une injection de traitement en retard comme seule sécurité. La confrontation avec ces populations particulières nous apprenait que la frontière est souvent fine entre le délire et le culturel cultuel. Par exemple, là où le délire mystique se présentait, il y a quelques décennies encore, souvent sous les traits d'une femme dévote habitée d'une mission divine pacifique, il prend aujourd'hui principalement les traits d'un excité décérébré voulant tuer ou mettre le feu au nom d'un certain prophète. Des formations ont même dû être créées à cause de la confrontation à cette patientèle. Ethnopsychiatrie, parcours migratoire, dialogue interculturel, bref, l'horreur. Mais pas besoin d'attendre le migrant fraîchement arrivé après sa traversée de la Méditerranée, les colons implantés depuis plusieurs générations forment déjà le gros des troupes, même dans les quartiers dits chics de la capitale, c'est pour dire. Des collègues ayant déjà travaillé en Seine-Saint-Denis en faisaient tous le même constat. Il s'agit du 7e cercle des enfers, là où la violence s'exprime et la toxicomanie est reine. Dernier point important. Les jeunes blancs qui atterrissent en psychiatrie sont bien souvent entraînés dans la culture rap, cannabis et Coran, comme dans les écoles en milieu hostile ou la prison. Leur seul moyen de trouver de la compagnie est de se formater à l'esprit ambiant. Bref, c'est la double peine. Il y aurait tant et tant à dire, mais vous avez déjà pu, je l'espère, cerner ce qu'est la psychiatrie actuelle. Voilà, en espérant n'avoir pas été trop long, je terminerai juste en précisant que j'ai préféré quitter, en début d'année, ce milieu déprimant pour un emploi tout autre, mais libérateur. De plus, j'ai décidé de quitter ce shithole qu'est Paris pour atterrir en Suisse, et maintenant, j'en profite. On ne peut pas posséder une conscience raciale tout en passant sa vie à soigner et accompagner les envahisseurs, fussent-ils malades. J'aurais honneur à soigner les miens, quitte à donner un peu de mon temps pour quelques allochtones respectueux, mais trop c'est trop. Je laisse les clés des écuries d'Ogias à d'autres. Bonne continuation à vous tous, amis démocrates, félicitations pour votre courage. Auf Wiedersehen, et c'est Dolphy qui nous écrit du coup depuis la Suisse, même s'il est originaire de France. Alors là, on a une analyse encore plus fine.
Encore plus fine.
L'ethnopsychiatrie, cher Gandalf. L'ethnopsychiatrie est donc enseignée dans ces milieux-là.
Alors, permets-moi de revendiquer, bien qu'on ne me l'ait pas délivré, un diplôme en ethnopsychiatrie. Je suis extrêmement versé sur le sujet aussi.
Ah oui, oui.
C'est un peu ma vocation. C'est d'expliquer la psychiatrie ethnique, la psychiatrie musulmane aux Français qui... Enfin, même aux
Belges,
aux Suisses.
Dans la droite ligne du docteur Porot. Hein,
du docteur Porot, tout à fait, du docteur Porot, dont nous avons d'ailleurs communiqué les travaux à télécharger sur la page de notre dernière émission. Alors, messieurs, d'abord, je remercie vraiment Dolphy pour son courrier. C'est très bien expliqué, c'est très synthétique. On sent qu'on pourrait y passer plusieurs émissions d'ailleurs, mais on voit que, comme il le dit, on voit la marée monter, on voit la marée raciale monter, c'est présent partout, y compris dans les arrondissements les plus chics. Hein, il dit à un moment, tous les arrondissements de Paris, tous sans exception, les métèques sont majoritaires dans les services psychiatriques. Hein. Ils sont majoritaires.
Bah, c'est-à-dire que l'hôpital psychiatrique, c'est la cocotte minute quand elle se met à siffler, tu vois, c'est là que ça. C'est le sifflet, tu vois, le psychiatrique. C'est là qu'ils arrivent en premier. Mais oui, derrière, tu as tout le reste. Tu as la France qui devient une espèce... Enfin, pas une espèce, qui devient un trou à merde. Hein,
oui, un shit-hole, oui, un shit-hole.
Ouais, voilà, un shit-hole. Où des Algériens brûlent des églises, des nègres font les nègres.
Copule avec des cadavres. Enfin, non, dans les hôpitaux psychiatriques.
Oui, aussi. Je pense pas que c'est ce qu'il fasse de pire. Hein, c'est...
Et les viols doivent être très courants, je pense aussi. Hein.
Ah oui, c'est très courant, c'est ce qu'ils disaient. Hein,
de base, dans la culture algérienne, c'est assez courant, mais là.
Ah non, mais chez les nègres, si tu veux, il faut quand même que la créature qui se fasse machin ait possibilité d'émettre un consentement ou pas. Bon, les nègres, je sais pas si y a cette distinction qui est possible dans leurs esprits. Enfin, ce qu'on peut appeler...
Puis-je me permettre un petit aparté ?
Bien sûr.
En fait, j'ai un profond respect, un énorme respect pour les asiles psychiatriques norvégiens.
Pourquoi ?
Qui, jusque dans les années Somaliens. 70, et peut-être même fin des années 70, comme c'était considéré comme une maladie, avait l'autorisation de trépaner les homosexuels.
Non, mais imaginez l'effondrement des standards, c'est-à-dire que aujourd'hui, bien sûr, l'homosexualité est une maladie mentale, hein, c'est très clair, mais qui nous paraît tellement, peut-être d'ailleurs de manière trompeuse, mais qui nous paraît tellement de prime abord moins grave que les cas dont on parle. Qui inonde les hôpitaux psychiatriques maintenant. Quoi.
Oui, c'est peut-être pas... Oui,
c'est pas un bien, en fait, hein. C'est pas un bien.
Non, déjà, c'est pas un bien, mais j'ai vu cette semaine-là dans une zapping télévision où tu avais notamment... une espèce de folle, hein, je ne peux pas appeler les choses autrement, une espèce de... qui était là à presque être en sanglots du fait que l'État français, pour l'instant, l'empêchait de pouvoir kidnapper des enfants avec le type qui lui ramenait le fion pour lui-même pervertir ce gamin et l'initier au sida. Il était là, ça le faisait... Il pleurait à la télévision, presque.
Oui, donc des gens très équilibrés, bien sûr. Hein.
Très équilibrés, avec des gourdes qui étaient derrière. Oui, mais oui, c'est... en 2020...
Je connais le
topo.
Ouais. Alors non, mais il faut en parler de ça. Ça, c'est un petit peu un sujet un petit peu parallèle, mais...
Parce que normalement, devrait être dans les options.
Oui, devrait être dans les options, tout à fait.
Au lieu de nous occuper des nègres et compagnie, eh bien, il faudrait s'occuper des gens qui veulent kidnapper des gamins en croyant qu'ils sont parents. Ça serait, je pense, la première la première action charitable que nous pourrions avoir à l'endroit de ces deux.
Il faut quand même faire observer que, par exemple, les transsexuels, vous savez, je précise aujourd'hui qu'au terme de la législation, et ça va encore s'aggraver avec la loi Avia, je précise aujourd'hui qu'il est interdit de critiquer des transsexuels. Ce qu'on appelle les transsexuels, c'est-à-dire des travelots. C'est strictement interdit. Si vous vous amusez à rire, à vous moquer d'un travelot, vous êtes passible des tribunaux et vous risquez un an de prison. Et 75 000 euros d'amende. Je me permets de vous le rappeler. Sachez que le taux de suicide chez cette clientèle est de l'ordre de 60%. Ce sont des gens qui sont des malades graves.
Bah, du coup, pas besoin de les soigner, vu que...
Non, mais c'est pour dire...
Ils se soignent eux-mêmes, quelque part.
C'est pour dire que la législation impose une terreur, parce que sous la pression de ces dégénérés, de ces fous, hein, qui sont infiltrés au plus haut niveau. Mais ces gens se suicident. C'est-à-dire que ce sont des dingues. Oui. Le taux de létalité, c'est 60%. C'est énorme. Les mecs, il y a plus d'un mec sur deux chez les travelots qui se flinguent parce que les types se supportent pas, etc. Bon. Mais
on attend simplement.
Donc, dans le même temps, alors que ce sont des cas psychiatriques lourds, on vous interdit toute critique pour faire croire que ce sont des gens normaux. Et ça, c'est juste les transsexuels. C'est juste les transsexuels. Donc, je vous parle pas des PD, je vous parle pas du reste. Hein, voilà, bien sûr. Donc voilà. Donc il y a une normalisation de la normalité et une marginalisation de la normalité par la puissance publique. Ce qui est complètement fou. Mais comme je dis souvent aussi, les fous ont pris le contrôle de l'asile. C'est bien qu'on parle de psychiatrie justement et qu'on parle des hôpitaux psychiatriques. La France est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. C'est probablement le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert du monde occidental, même s'il y a de la concurrence, je le conçois. C'est le plus grand hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Ces gens ont pris le pouvoir. Alors, il y a de tout, hein. Les excités du Coran, les juifs. On pourrait parler des juifs aussi en termes de psychiatrie. Il y aurait des choses à dire, puisqu'on fait de l'ethnopsychiatrie. Il y aurait des choses à dire aussi sur ces gens-là. Hein. Le docteur Hyssen a parlé quand même assez longuement du cas psychiatrique des juifs. Je vous réinvite, si ce n'est déjà fait, à lire ou relire Psychanalyse du judaïsme, si vous voulez plonger dans l'univers psychiatrique et psychologique de ces gens-là, vous allez en découvrir des vertes et des pas mûres. Donc voilà, donc on est là-dedans. Et bon, c'est... Sous un vernis de normalité. Alors évidemment, dans les hôpitaux psychiatriques, si vous voulez, là, c'est hyper concentré. Quoi. C'est hyper concentré. C'est-à-dire, tous ces mecs-là, voilà. À Paris-Centre, évidemment, dans les grands arrondissements, les arrondissements chics, combien de stars du showbiz on va pas retrouver, etc. Vous savez, des mecs très connus, voilà. Tous ces trucs-là, les gens ne le savent pas, quoi. Quelqu'un veut dire quelque chose ? Rajouter quelque chose sur...
Par rapport à ce que tu as dit sur les travelots et compagnie, l'histoire de genre, bon, nous on prend ça pas mal à la rigolade, en s'inspirant un petit peu de ce que font les Américains quand on voit arriver des masters en études de genre et compagnie, parce que ça arrive en France, et on a tort parce que bon, ça n'est pas des gens qui se trouvent au chômage quand ils finissent leurs études. Alors peut-être qu'aux États-Unis, ils prennent ça à la rigole, mais en France, visiblement, ce n'est pas forcément le cas, parce que ces gens-là finissent dans des boulots de relations humaines, RH, de recrutement, pour des grosses boîtes dans lesquelles ceux qui font des études, qui sont un petit peu des vraies études pour le coup, et qui sont en général plutôt de notre bord, ceux qui nous écoutent, vont avoir ces gens-là qui vont être qui vont dire si oui ou non tu vas bosser pour eux ou pas, si tu vas pouvoir rentrer et comment tu vas devoir te comporter dans leur boîte. Donc c'est très inquiétant. Hein. C'est très moi je prenais ça à la rigole quand j'ai vu qu'il y avait effectivement des débouchés dans le privé pour les masters en études de genre.
Ouais, ouais.
J'ai.
Bah, c'est fait pour. C'est fait
assez inquiet, quoi.
En fait, c'est des commissaires politiques, hein.
Ce sont des commissaires politiques.
Commissaires politiques LGBT, hein, ni plus ni moins. Hein.
Mais là où on aurait pu se dire que l'État français est mis, ait été à l'avant-garde de ce pourrissement, en fait, l'État français a plutôt suivi une demande des entreprises, qui était guidée ou pas depuis ailleurs. Je pense que quand même. Adonai, hein, voilà.
Non, mais même Soros. Même l'international LGBT, les gens ne le savent pas. Parce qu'on parle souvent de la franc-maçonnerie, etc. La franc-maçonnerie, permettez-moi de le dire, fait aujourd'hui pâle figure à côté de l'international LGBT. Parce qu'en fait, parce qu'ils sont ringards. Ils sont là, c'est des vieux blancs, etc. Pour les censés, etc. Ils sont déjà has-been. Alors oui, ça existe. Hein, y a quand même des clubs un peu select et tout. Mais finalement, ils n'ont plus trop besoin même de se rencontrer dans ces trucs-là pour trafiquer, pour combiner, pour comploter. En revanche, l'international LGBT, elle est structurée, elle est renforcée permettez-moi de le rappeler, mais elle est renforcée par une pratique quotidienne. Ce n'est pas une adhésion idéologique, le LGBTisme. C'est d'abord une pratique. C'est une pratique. Ce sont des rites sexuels. Ça rejoint d'ailleurs un peu la magie sexuelle qu'on va retrouver dans certaines organisations sectaires. Donc ce sont des gens qui pratiquent ça, en milieu quand même assez fermé, et qui voyagent beaucoup. C'est-à-dire que si vous regardez les trucs LGBT, vous pouvez voir sur YouTube, hein, regardez, hein, vous voyez qu'ils ont leurs endroits à eux un peu partout sur la planète. Et c'est un fait aussi statistique, c'est que la maladie mentale LGBT est globalement assez bien partagée dans le monde, vous voyez ? Ce qui lui donne un caractère réellement transnational. Au même titre que la juiverie. C'est pas étonnant qu'on retrouve toujours les deux, parce qu'on les retrouve toujours ensemble, en train de conspirer. À Paris, c'est particulièrement caricatural, sous la houlette de Anne Hidalgo, à la mairie de Paris. On voit bien qu'il y a deux leviers. Le principal, c'est le levier homosexuel. Et non négligeable aussi, le levier juif. C'est très clair, hein, c'est tout à fait évident. Hein.
Il y a des rassemblements, il y a Yann Brossat qui a les deux, il y a Gabriel Attal qui a les deux...
Les deux qualités, les deux cartes.
Les deux qualités, ouais.
On peut aussi être franc-maçon, bien évidemment, bon, on peut rajouter ça. Un petit plus, voilà, un petit plus éventuellement. Donc, tout ça pour dire, si vous voulez, qu'on a affaire à des gens qui partagent donc leur déviance mentale, qui pratiquent ensemble, qui voyagent dans les mêmes endroits, qui sont affiliés au même groupe.
Et qui sont prosélytes. Hein. Ce sont des gens qui sont prosélytes.
Et qui sont puissants. Ils ont de l'argent. Faut comprendre. C'est pas l'internationale prolétarienne. Hein. Ce sont des gens qui ont du pognon. Et comment dire, du coup, ce que tu nous dis, tu dis voilà. Les entreprises prennent l'avant-garde, oui, mais les PD dans le marketing, les mecs sont là, et ils vont leur dire, écoutez, votre entreprise, si elle doit être en phase avec son temps, voilà, elle doit. Voilà. Et donc, on est là, finalement, à la croisée, hein, entre psychiatrie, lobbying, big business, vous voyez, on y est, quoi.
On est dans le totalitarisme, c'est-à-dire qu'on est dans des formations payées par l'État, à destination de postes de commissaires politiques dans des entreprises, pour une cause qui est la cause de l'anus, quoi, hein, clairement. Donc c'est du terrorisme.
En sachant, si on s'intéresse au niveau institutionnel, l'Union européenne, comme avec les Juifs, mise à fond là-dessus. Hein, je veux dire, c'est un cheval de bataille idéologique. Tous les pays, regardez le test, les pays qui essayent de résister politiquement sur toute une série de sujets sont soumis au test, entre guillemets, homophobe, parce que ça c'est le nouveau mot, quoi. Homophobe, il n'est pas si nouveau, mais vous avez bien compris, islamophobe, homophobe, quoi. La Pologne, récemment, résiste, hein, vous savez, ils ont fait des zones sans gays, vous savez, les mairies peuvent se déclarer zone libre de gays. Ça me rappelle d'autres zones libres de juifs. Judenfrei.
Et de chien. Interdit aux juifs et aux chiens.
Oui, ah.
Pauvre bête.
Enfin bon, donc la Pologne essaye un petit peu de résister. On les met au test. Violation des droits internationaux, et vas-y que je te... Et puis alors, tu sais, ils passent par tous les biens. Ils passent par l'étatique, ils passent par le para-étatique, ensuite t'as des associations, ça chiale, ça truc, t'as les PD qui vont voir les juifs, le congrès juif mondial, et le truc de l'Holocauste, et bah, bah oui, bah, les triangles roses, les étoiles, bah, voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Et donc là, récemment, bah, l'Union Européenne, bon encore, je sais plus à quel titre, mais coup de pression, les droits des PD, vas-y que je te... etc. Enfin, c'est un truc à ne pas sous-estimer. Alors, on s'éloigne parce qu'on partait de la psychiatrie, mais on est dans le grand domaine, en fait, d'Arkham, quoi.
Bon, alors, je vous explique le topo. Dans les pays de l'Est, en tout cas dans les pays de l'Est à majorité orthodoxe, l'homosexualité ne passe pas du tout. Mais alors, quand je dis pas du tout, ils ont essayé de faire leur gay pride avec l'aide de l'ambassade des États-Unis. Ça s'est très très mal passé. Mais il y a un énorme souci, c'est-à-dire que les métropolites, donc la hiérarchie de l'Église orthodoxe, a une pression juridique de plus en plus importante. De tous les milieux, gays, homo, tout ce que tu peux avoir. Donc, jusqu'à aujourd'hui, ça tient. Maintenant, il faut bien se rendre compte que si on traduit l'Église orthodoxe devant la Cour européenne de justice, le résultat, bon, on le connaît déjà à l'avance, hein, on sera obligé de se coucher, il n'y aura pas d'autre possibilité.
Ben, on avait eu le cas ukrainien, là, donc l'Ukraine qui est une colonie juive maintenant, de fait, par son gouvernement, quoi. Hein, le président est juif, Zelensky est un juif. Les Ukrainiens sont sous occupation juive. Et on avait eu le cas il y a un an et demi, d'un coup de pression direct de la part je ne sais plus quel. Enfin, il y avait eu un canular téléphonique où quelqu'un se faisait passer pour je ne sais plus quel responsable de l'Union Européenne en demandant des avancées sur les droits des homosexuels en Ukraine avec le responsable religieux orthodoxe ukrainien et celui-ci disait qu'effectivement il comprenait qu'ils allaient changer pour faire évoluer les mentalités, etc. Donc on sait comment ça fonctionne, quoi. Alors bon, on s'écarte, hein, de la question psychiatrique. Mais on va peut-être recentrer, on va peut-être revenir Ouais.
Justement, pour recentrer sur la question psychiatrique,
ouais.
Faut bien se rendre compte que tu as deux types de maboules. Tu as les déchets qui débarquent joyeusement en France et ailleurs et qui se retrouvent dans les centres psychiatriques. On leur fait de la psychiatrie lourde. Et puis, tu as les zinzins à pognon. Et les zinzins à pognon se retrouvent dans un autre type d'asile psychiatrique, beaucoup plus libre, dans lequel les médicaments sont très différents. Et je vous invite à l'occasion à vous rendre dans les folles nuits de la jet set qu'on peut avoir aussi bien dans les clubs de la jet set tels qu'à Monaco, Miami et ailleurs, ou dans les yachts privés qui sont au large. C'est d'un point de vue psychiatrique, les malades sont encore pires, mais vu qu'ils ont du pognon, on leur fout une paix royale.
Ouais, bien sûr.
Alors, j'ai retrouvé là ce que j'ai cherché là sur. Donc, c'est l'ex-compagnon de René Scherrer qui était. Un éditeur pédophile proche de Maznev, hein, que j'ai entendu parler il y a quelques semaines, qui s'appelle Guy Hockenheim. Peut-être que certains se demandent, parlent à certains auditeurs, ou à certains qui sont ici. Et ce type-là, c'était battu avec Finkielkraut à l'époque, dans les années 80. Donc ce type-là est mort du sida, hein, depuis.
D'accord.
Bien heureusement. Et il s'était battu avec Finkielkraut pour des histoires d'étoiles jaunes et de triangles roses, en gros, dans les camps. C'est-à-dire que l'un essayait de ramener le communautarisme victimaire, les PD qui s'étaient fait persécuter par les nazis, et l'autre, le juif, défendait son beefsteak, et donc ils en étaient venus à se foutre dessus, quoi.
Alain Ficarraud, qui est devenu la référence phare de la résistance identitaire au sein de la droite souverainiste, on peut quand même le souligner.
Oui,
ça fait envie. Hein.
C'est un patriote. Patriote. En France. Il était, comment s'appelle, c'est un immortel maintenant. Hein, c'est un immortel.
Ah oui, l'Académie. Ah oui. Attendez, il y a Rost. Rost va y entrer, alors un peu de patience.
Ah oui.
D'ailleurs, ça risque de se transformer aussi en hôpital psychiatrique, l'Académie française, je pense, enfin, à terme, quoi. Hein,
pour l'instant, c'est plutôt une maison de retraite, ça pue la pisse. Hein,
oui mais ça va changer. Je pense qu'on va vers déjà plus Sainte-Anne, une annexe de Sainte-Anne. Ça promet d'être assez intéressant. Je pense qu'on aura des clients à l'Académie française. Je pense que ça sera pas mal. Autre chose sur la psychiatrie en général en France, sur le courrier notre auditeur, espèce de concentré de délire absolu, avec l'arrivée de migrants, ça c'est très peu, on en parle très peu, on nous raconte toujours des belles histoires sur les migrants, hein, vous savez, ils vont redonner vie à nos villages, etc. Mais on nous parle finalement assez peu donc de ces nègres comme celui du Congo là, qui arrive et qui se confie et qui dit bon, en fait, j'ai tué quelqu'un chez moi et. Valait mieux partir, valait mieux aller en France.
Là où l'Europe est criminelle.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, tu vois, quand le Congo, tu vois, n'est plus propice pour les criminels, les bandits de grand chemin, une seule direction, la France. Tu vois, c'est bon. Ça en dit assez long quand même. Hein.
Avant, les criminels, ils se barraient de l'Europe pour se barrer en Afrique, pour être discret. Maintenant, ça s'est inversé.
Ça a toujours été ça, hein, la France, depuis que les portes sont ouvertes, hein, depuis que nous avons envoyé le signal comme quoi ces gens-là étaient nos égaux, parce que les droits de l'homme, parce que...
Le droit d'asile,
etc. Le droit d'asile, oui, même pas que le droit d'asile, parce que la vocation universelle, les droits de l'homme.
Oui, voilà.
Les droits de l'homme, en fait, hein. Ces gens-là sont tourmentés, et puis... tous les tarés qui peuvent avoir, enfin, bon, déjà ces gens-là sont pas forcément très sympas par défaut, mais parmi les plus marginaux qu'il peut y avoir dans ces pays-là, eh bien ils se disent bon, mais moi je n'arrive pas, je me barre, je vais aller en France. La France, c'est le collecteur des goûts.
France, terre d'asile, voilà.
Tous les tuyaux à chiottes de l'Afrique mènent en France. Ouais, ça mène là. Oui, c'est la terre d'Asie, comme dit Opéro.
Le tout à l'égout.
Un petit peu plus. Ouais, c'est le tout à l'égout. Le tout à l'égout.
C'est le tout à l'égout.
C'est ça. Hein, c'est le tout à l'égout.
On a trouvé le titre de l'émission.
Donc, tu as le type qui arrive. Moi, tout est quelqu'un. Donc, moi, venir France. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, oui. Voilà.
1000 euros par jour. 1000 euros par jour.
Quand il dit ça, bien entendu, nous, oui, 1000 euros par jour de frais, et nous t'accueillons. On ne va pas lui faire un procès, essayer de le rembaucher. Non, tu es en souffrance, nous allons t'aider.
Attends. Et le serment d'Hippocrate? Et le serment d'Hippocrate?
Oui, le serment. Oh là 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 là, oui, le serment d'Hippocrate.
Ah,
oui. Le serment d'Hippocrate, ça marche, sauf pour les chirurgiens plasticiens, oui, le chien, c'est le chien.
Plasticien
juif. Ouais. Non, plasticien, parce que c'est des juifs en l'occurrence. Il y a eu un reportage qui est passé cette semaine là, sur Envoyé spécial, sur les plasticiens en France et à l'étranger. Oui, effectivement, eux, le serment d'Hippocrate, ils arrivent à passer tout à fait outre.
Tout à fait outre.
Oui, ça
oh, oui, il est joli.
Il passe outre.
Ouais, ils salopent des gamines qui sont déjà, qui ont la tête, bon, voilà, déjà c'est des femmes, mais bon, des femmes plus Instagram, ça, c'est une bombe nucléaire. Et tu as le chirurgien juif qui vient saloper des gamines derrière, ouais. Bon, voilà. Je m'égare, mais bon, je voulais dire un petit peu de mal des juifs, ça fait un petit peu, ça faisait
quand même... Ça fait toujours du bien.
Ouais.
Ouais, une bonne heure,
on fait des soins psychiatriques, hein, on dit du mal des juifs et du coup après on c'est une thérapie de groupe, ça va beaucoup mieux après.
Ouais, moi si je dis pas du mal des juifs très régulièrement, je me sens pas bien. Ouais.
J'ai des aigreurs.
Ouais, j'ai des aigreurs, l'estomac.
Donc quelqu'un d'autre va-t-il rajouter quelque chose sur le panorama psychiatrique qui nous a été fait par ces deux, deux infirmiers en fait, hein. Remarque, une question, pas en particulier.
On est content de payer les impôts, putain.
Alors par contre, je veux dire une chose, hein. Voilà un domaine qui professionnellement a de l'avenir en France. Hein. Ça, la psychiatrie en France, ça, je vous assure qu'il n'y aura pas de pénurie de clients. Hein. Ça, c'est vraiment, vous aurez des clients. Vous aurez peut-être pas beaucoup de moyens, mais vous aurez des clients.
Oui, voilà, il y aura des clients jusqu'au jour où il y aura plus de moyens, plus bon. Ça...
Ah, ça, c'est... Ah, mais j'ai dit, on change de doctrine. Grosso modo, vu l'affluence, progressivement, en fait, on... bon, ils sont en rétention ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas en rétention. Quoi. Je pense qu'ils vont peut-être développer le concept. Tu vois, tu mets un bras électronique autour d'un dingue que tu libères, tu vois.
Non, mais peut-être que ces coins-là vont être les derniers lieux où pourront aller se réfugier les Blancs, peut-être.
vous avez vu, il donne un exemple.
L'asile va être tellement répandu à l'extérieur que, oui, pour être tranquille, pour être sécurisé, il va falloir aller jouer à l'abruti devant un hôpital pour être pour avoir un mois tranquille, quoi, hein, par exemple. Je sais pas.
Vous avez noté qu'il dit que, comme en prison, grande ville, en fait, baigne dans un bain islamique, en fait, c'est ce qu'il dit, hein, afro-maghrébin et islamique, et que progressivement, en fait, ils sont absorbés. Et il dit que c'est la double peine, parce que non seulement ils ont leurs problèmes psychiatriques, mais il y a la culturation induite par la présence massive des halogènes, toujours prosélytes, aussi malades soient-ils, peut-être encore plus prosélytes en raison de leur maladie, se font rattraper et finissent vraiment très très mal. C'est affreux quand on y pense. Hein. C'est affreux, hein, en général. Voilà. Et ça, c'est le miracle républicain français. C'est pas le système de soins que le monde entier nous envie, c'est pas ça?
C'est ça.
D'accord.
Qui coûte pas du tout cher. Hein.
Comme je dis souvent, quand on aime, on ne compte pas.
Le meilleur système au monde, ce qui prouve que les Suisses et les Finlandais meurent dans les rues.
Ah, ils meurent dans les rues.
Oui. Ah oui, les Luxembourgeois aussi. Hein.
Messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et de nous retrouver tout de suite après pour la deuxième partie de notre émission.
Ils sont partis travailler. Mais ils ne sont jamais rentrés. Les mille et les cent d'acédiques, l'amour de notre république, ont ramené toute l'Afrique. Ouh, ils sont restés. Par quel indécent décret, voudrait-on les renvoyer? Ces gens sont devenus nos frères, ouh, d'humanité. Ohé, ohé, africaine en turbanée. Ohé, ohé, descend de ton bananier. Les cieux te font rêver. Tu peux toujours t'embarquer. Mais si nos gendarmes t'enlèvent, quand tu prendras pied sur nos grèves, sache que vient déjà la relève. Ouh, diversité.
Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 6, et Porovic nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette deuxième partie. Salut Poro!
Shalom alaikum à tous, bah oui, me voilà.
Voilà, shalom alaikum, en avant Guingamp, en avant les nègres. Alors messieurs, après donc avoir parlé de psychiatrie musulmane, nous allons nous intéresser un petit peu à tout autre sujet. Rubrique numéro 3, autisme radical. J'ai quand même envie de parler un peu du remplacement national. Parti de Marine Le Pen, qui décidément fait l'actualité, on est bien obligé d'en parler. Et je vais commencer par cette déclaration, certes anecdotique, mais ô combien révélatrice. C'est Julien Odoul. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de présenter cette ancienne icône gay, qui a eu le plaisir, je crois, d'être en une de Têtu, me semble-t-il. Hein. Enfin bon, c'est quelqu'un qui est assez connu au Front National. On lui devait notamment la polémique, vous savez, avec le voile islamique au Conseil Régional de Bourgogne. Vous vous rappelez de ça, hein, avec l'altercation, etc. Alors, je tiens à vous rassurer, Julien Odoul n'est pas du tout tenant d'une ligne racialiste, raciste, c'est très clair, et il l'a expliqué sur son compte Twitter. Je vous livre sa déclaration. Elle était accompagnée d'une magnifique photo d'un ouvrage sur l'histoire de France avec très belle illustration. Vous allez voir où je vais en venir. L'enseignement de l'histoire de France, dit-il, est le moteur de l'assimilation républicaine qui repose sur l'acceptation par tous d'un passé unique symbolique pour construire un avenir commun. Ainsi, chaque Français, au-delà de ses origines personnelles, a pour ancêtre les Gaulois. Alors, c'est accompagné d'une magnifique photo d'un ouvrage où on voit un dessin de Vercingétorix. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que Yacine Bellatar, heureux titulaire d'un passeport français, est un descendant de Gaulois? Au Rassemblement National, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Est-ce que pour vous, l'assimilation républicaine en passant par Vercingétorix quand on s'appelle Mamadou est un horizon à atteindre, oui ou non? Je vous
pose la
question. Moi, déjà, je remarque Yannick Bellatar, putain. Comment il s'appelle là, Odoul, je remarque qu'il est quand même très brun. Je sais pas s'il y a quelque chose chez lui dans ses origines, peut-être.
Mais pour un homosexuel, la finalité d'un trou du cul, c'est toujours la couleur brune, hein. Donc.
Oui, c'est vrai. Il y a une belle trace sur une belle cuvette, effectivement. C'est vrai, c'est. Non, mais l'assimilation, je veux dire, c'est un vrai problème. Je veux dire, on peut en rire, mais c'est quand même effrayant. Dans la France, dans la France de 2020, je veux dire, parce que quand t'écoutes ces connards,
la sénilité nationaliste française, quoi.
Voilà, c'est ça. quand t'écoutes ces connards, t'as l'impression qu'on est dans la France des années 50, 60, les mecs te parlent de Marius Trésor, etc., comme le fait très bien Zemmour, et ils trouvent ça génial, etc. Mais attendez, la France de 2020, même Zemmour, dire que c'est une connerie, alors que
Zemmour
le mec,
il a dit que ça n'existe plus, c'est fini.
Ouais, c'est fini. Il dit, je regrette, mais c'est fini. Au Front National. Donc, au remplacement national, ce n'est pas fini. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Vous suivez les déclarations des Gilbert Collard, des Ossam Messia, des Odoul, des Louis Alliot et consorts, ce n'est pas de l'histoire ancienne. D'accord ? Ils n'en parlent pas avec, vous savez, un petit pincement au cœur. Ah, c'était tellement bien du temps où on assimilait des Italiens. Non. L'assimilation, c'est d'actualité, disent-ils. Il faut y revenir, et il faut y revenir tout de suite, en 2020. Et encore plus en 2022. Marine Le Pen est candidate au présidentiel. C'est le projet, c'est le futur. Et là, vous vous dites, waouh. Là, on est quand même... Il y a un gros problème. Vous allez retrouver ce type de discours, évidemment, chez Nicolas Dupont-Aignan, dans des journaux considérés comme de droite, voilà, comme Valeurs Actuelles, etc. C'est un vrai axe politique défendu et idéologique défendu par ces gens. C'est pas juste une boutade, vous voyez, on pourrait dire, ah ouais, les mecs essayent un petit peu de pointer les contradictions de la gauche multiculturaliste qui se dit républicaine, machin, en montrant du doigt qu'elle est communautariste, c'est-à-dire qu'elle fait dans le clientélisme ethnique et religieux avec les musulmans ou les africains. Non, c'est vraiment un article de foi. C'est-à-dire qu'au départ, ça a pu être une pique. Maintenant, c'est un acte de foi, un article de foi, quoi. Donc je vous demande, quoi, je veux dire, parce que, enfin, ce n'est pas opératif, quoi. Je veux dire, en termes concrets, si demain, je raconte n'importe quoi, mais demain Marine Le Pen est présidente de la République, elle proclame assimilation, nouveau grand programme. Oui, bah c'est le premier grand échec. C'est-à-dire que ça ne va pas fonctionner. Ça ne marchera pas. Donc.
Et puis tant mieux.
Oui, non, mais tant mieux. Mais en
tant
plus,
que ça marche pas.
Ça peut pas marcher. Et tu dis bon, à un moment, quand commence-t-on à être pratique ?
Bah, le truc, c'est qu'en fait, tous ces gens-là, ils ont acté la victoire idéologique et morale de la gauche. Donc à partir de là, défendre l'assimilation. C'est le seul truc de droite moralement acceptable que tu peux défendre. Étant entendu que la remigration, c'est interdit. Parler de l'impossibilité de l'assimilation à cause des différences biologiques, culturelles, raciales, c'est interdit. Donc à partir de là, si vous voulez, à partir du moment où ils renoncent à contester l'idéologie de la gauche dans ses fondements, contester l'antiracisme, contester l'égalitarisme, etc., Ils sont cuits. Ils sont condamnés à reculer jusqu'à tenir des positions qui sont absurdes.
Oui, c'est-à-dire qu'ils se contentent de l'os à ronger qu'on leur a laissé. Alors là, vous avez le droit de parler de ça. Si vous parlez de ça, vous n'irez pas en prison. Donc, allez-y, quoi. Bon, ben, ils y vont. Ils sont polis. Ce sont des gens qui disent oui. Pour prendre un petit peu le titre de, en opposition au titre de la dernière émission, hein, les gens du RN disent oui, on accepte tout, les nègres vont s'assimiler, oui, les nègres sont gaulois, oui, les félagas sont des arvernes, hein, voilà.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est le parti qui fait où on lui dit de faire.
Voilà, on le cornérise, hein, on le met dans un coin, dit reste là, d'accord, je reste là, je reste à mon truc, il n'y a pas de problème. Et bon, ça n'est pas de ça dont nous avons besoin. Hein.
De toute manière, excuse-moi de t'interrompre, Derrick, il faut bien se rendre compte d'une chose.
Pas de problème.
Ils ne peuvent plus se permettre de perdre du fric, ils n'en ont plus. Donc, tout ce qui risque plus ou moins de les mener à un procès, ça va jamais marcher. Donc, si demain on leur dit, écoutez, il vous faut 65% de bougnoule au sein du parti, ben, ils vont ouvrir les portes.
Oui, oui, c'est ça. Ils sont vaincus intellectuellement. Si vous voulez. Tant qu'ils n'auront pas le courage de se tenir droit dans leurs bottes et de dire, mais attendez, au nom de quoi on prend des leçons de morale de la part de la gauche ? Qui sont des gens dont la morale est quand même un peu douteuse, sont des gens qui défendent l'avortement, sont des gens qui défendent l'abolition de la peine de mort pour les criminels, sont des gens qui par contre sont tout à fait contents de mettre en prison un commerçant parce qu'il s'est défendu durant un cambriolage. Donc, ce sont des gens quand même, la gauche, qui a une morale très douteuse, très inversée. Eh ben non, ils n'ont pas le courage de la contester. Et à partir de là, bah, ils reculent. Et comme dit Diabolix, demain, si on leur dit de mettre 65% de race debout, bah, ils le feront.
Bah, ils ont déjà commencé à le faire dans leur propre rang. Hein.
Ah oui, là, c'est très clair, oui, d'ailleurs. Et d'ailleurs, mais en fait, vous savez, ces reptations, en fait, c'est le teckel. C'est pour ça que ces gens ne peuvent pas gagner. C'est d'ailleurs c'est la duplication de leur attitude vis-à-vis des juifs. Vis-à-vis des races debout. Et c'est très logique, c'est très cohérent, au fond. Je veux dire, voilà, c'est très clair. Donc, ils ont rampé devant les juifs, je n'ai pas besoin d'y revenir, bon, voilà. Enfin, Marine Le Pen, à l'initiative de Marine Le Pen, donc, ils se sont alignés sur toute la... pratiquement toute la doxa. Et donc, maintenant, le grand thème, c'est le rassemblement, donc le Rassemblement National n'est pas un parti d'extrême droite. Ce qui est vrai, d'ailleurs, c'est vrai, et n'est pas raciste, oui, c'est vrai aussi. Bon, mais ils tiennent à le faire savoir, c'est-à-dire qu'ils tiennent à, comment dirais-je, à parader comme le bon élève de la classe républicaine antiraciste. Et ils ont un type qui est Ossam Messia, qui se charge de faire ce truc-là.
Tournevis.
Voilà, tournevis, mais pas simplement juste pour amuser la galerie, c'est que quand vous regardez, ils se mettent en scène, etc., il y aura de plus en plus de nègres, de mulâtres, de bougnoulouches, de demi-tziganes qui se glissent dans cette organisation. Donc si on voit cette putréfaction raciale, ethnique, culturelle, progresser à une vitesse aussi fulgurante, sur fond d'une faillite, comme l'a très bien dit d'ailleurs Diabolix, parce que c'est une catastrophe économique le Front National. Heureusement que la France n'est pas gérée par le Rassemblement National. Hein. Heureusement. Hein. Parce qu'elle est déjà en faillite aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça serait si on avait l'alcoolo-tabagique à la tête du navire, hein. Je veux dire, attention, hein, tout serait bouffé, toute la gabegie dont on a parlé précédemment dans le domaine psychiatrique, ça serait autrement plus aggravé, alors elle puiserait la cave de l'Élysée, mes amis, la cave de l'Élysée, je n'ose même pas y penser. Non, mais j'ose pas y penser. Et, déjà, elle serait vidée.
Ah,
elle serait vidée sur le champ et transplantée à Montretout. À Montretout.
Vidée, oui, mais pas que. C'est-à-dire que moi, Steve Briouat et Madame Bruno Bild.
Ah, ça serait revendu.
Je
ne
veux
ça
pas savoir ce qu'ils feraient avec les bouteilles.
Oui, entre-temps, oui, il y a des choses.
Non, mais vous voyez que le négatif, mais avec un petit peu de chance, il baisserait le prix du tabac.
la gauloise sans filtre serait abordable.
Le paquet à 2 euros, moi je dis oui.
Enfin bon, ouais. Alors, justement, puisqu'on parle un peu d'argent, donc le remplacement national...
Parle de français et d'argent, il faut...
Voilà, il faut un peu cracher quand même. Alors, Marine Le Pen a inventé, là, je ne vais pas lire un article, c'est pas la peine, parce que c'est consultable, de toute façon. Ceux qui s'y intéressent l'auront vu, ceux qui s'y intéressent pas l'auront peut-être vu malgré eux, parce que sur Facebook, sur Twitter, à la radio ou ailleurs, vous aurez entendu parler que... Vous aurez entendu dire que une femme multidivorcée, passablement accro à l'alcool, avait besoin d'argent et qu'elle lançait une grande souscription nationale pour renflouer les caisses de son bar tabac. Donc, qu'est-ce que vous pensez de l'affaire du PMU de Marine Le Pen? Elle a tout bu.
La Banque démocratique.
Elle a appelé ça la Banque démocratique.
Ah, mais c'est merveilleux.
Alors nous, on a une banque démocratique participative, mais bon. Vas-y, Diabolix. J'allais t'appeler Chamonix.
Mawin, si, écoute à moins. Si t'as déjà écouté le début de l'émission, t'as compris que dans les asiles psychiatriques, il y a moyen de faire 2000 euros par jour et par personne. T'as cru que tous les gogoles, ma chérie. En un an, c'est fait, t'as gagné.
Ah, j'ai une nouvelle formule, un peu à la Victor Hugo. Fermez un hôpital psychiatrique et vous ouvrirez un parti national. Oh mon dieu. Alors du coup, elle lance sa subscription. Bon, elle avait déjà lancé un truc comme ça, non? Un loto encore comme ça, là. Pour les vieux, pour qu'ils payent. Il y a des gens qui ont payé, quoi, je veux dire.
Ah oui, oui, ils ont des gens qui payent. Bah, les Français, c'est un petit peu le projet, quoi. C'est le paradis, hein.
Voilà, donc on relance le truc et tout. Les Russes ont réclamé leur pognon, là. Vous avez pas remarqué ça?
Putain, Marine Le Pen, elle a même réussi à arnaquer les Russes tellement qu'elle est près de ses sous, tu sais. Même les Russes, quoi.
Et Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire son père, hein, via son association, son espèce de micro-parti Cotelec, je crois qu'elle lui donne aussi quelques millions d'euros. Hein,
bon, qu'est-ce que c'est, franchement?
Bon, ouais.
Quelques millions d'euros. Est-ce si important? Ce qui est en jeu, c'est l'avenir de la France.
Oui, puis bon, franchement, c'est vrai que 250 bouteilles de champagne dans le centre du Francky Vincent et du Village People, après une défaite où on a fait un débat, un débat
très
vraiment ignoble,
oh,
face à Macron, c'est vrai que ça en vaut quand même la peine.
Moi, je pense qu'il est beaucoup plus facile de réhabiliter, et sur des bases très solides, l'œuvre d'Adolf Hitler que le débat de Marine Le Pen du deuxième tour de 2017.
Oui, voilà. Pour les gens qui disent oui, c'est gentil, démocratie partie, vous êtes marginaux des idées extrêmes. Nous ne voulons pas réhabiliter Marine Le Pen. Hein. C'est déjà, nous avons cette lucidité là. Hein. Bon.
Oui, n'est pas rationnel qui croit, n'est pas toujours rationnel
tout,
qui croit.
Tout sauf Macron. Hein, bon, non, pas tout sauf Macron, je suis désolé. Marine Le Pen, bon. Non, mais il y a des gens qui croient que Marine Le Pen a une chance. Hein. Il y a des gens qui croient, quand ils disent, mais c'est une conne, etc. Mais quand même, il y a eu des gilets jaunes et tout. Ben non, ça ne sert. C'est un épouvantail, ça ne sert à rien.
Alors, déjà, Marine Le Pen à la présidence, déjà, si vous voulez, les gilets jaunes, c'est x10. C'est-à-dire que si vous observez la clientèle des gilets... Enfin, c'est plus les mêmes gilets jaunes qu'on a déjà
ça
dit.
Ça sera les gilets rouges.
Voilà, c'est les gilets rouges. Bon, voilà, ils portent un truc, une chasuble jaune, mais c'est des mélanchonistes et c'est des cégétistes, etc. Bon, déjà, si vous voulez, toute la gauche, qui, excusez-moi, en France, électoralement, c'est encore 30% de l'électorat. Alors, c'est éclaté, ils sont divisés, certes, mais c'est encore 30% de l'électorat. Et en tout cas, un bon quart, un bon 25%. Ces gens-là, vous les faites pas rentrer dans la bouteille. Ils sont dehors, ils sont sortis, c'est comme le génie. Ils sont là. Bon, vous la mettez au pouvoir, vous avez la chienlit dans les rues. Donc, alors, la démocratie, on a gagné par les urnes. Oui, bon, Macron aussi, bon, voilà. Donc, ensuite, vous aurez le centre bourgeois, donc les macronistes, etc. La droite, friquée, bien sûr. Et puis je parle pas de la coalition internationale, pour en finir très rapidement. Donc là, c'est les juifs, les milliardaires, l'international LGBT dont tu as parlé, la franc-maçonnerie,
Et la tripotée de fonctionnaires aussi. Oui. Tu peux pas diriger la France sans une armée de hauts fonctionnaires qui sont tous antinationalistes. Hein, donc rêvez
bien
pas.
Bien sûr. Plus
tous les crétins qui n'ont rien compris au film et qui sont très nombreux aussi.
Et j'aimerais rajouter quand même les bougnoules et les musulmans. Enfin,
c'est un peu j'allais les oublier.
J'aimerais qu'on les oublie un peu vite. Donc, alors vous allez me dire, mais quand vous dites ça, c'est quand même terrible, etc. Oui, c'est terrible quand on croit qu'on va gagner par les urnes. Je veux dire, oui, effectivement. Quand vous pensez que ça va se passer tranquillement, vous voyez, deuxième tour des élections, etc. On a gagné, voilà, tranquille, 1981. Voilà, maintenant, on va piloter. Non. Voilà. Mais ça marche.
Faut que les gens se réveillent, je veux dire. Objectivement, le rôle du FN, depuis sa médiatisation dans les années 80, ça a été de diaboliser les idées qu'il prétendait défendre. En fait, il fait l'inverse de ce qu'il est censé faire.
Bah, je veux dire, à la limite, tu peux toujours être instrumentalisé par tes ennemis, mais ça, c'est pas de ton fait, c'était en position de faiblesse, comme le FN des années 80. Bon, tu défends quand même tes idées, etc. Bon, ça, c'est de la tactique. Mais tant que tu restes dans une ligne, idéologiquement correcte, que tu défends des idées saines, que tu vises quand même quelque chose de positif, il en ressort quand même des choses qui sont utiles, je veux dire. Alors bon, c'est peut-être maigre, mais c'est mieux que rien, disons quoi. Mais c'est sûr que l'existence du Front National n'a pas du tout empêché le moindre Algérien de poser un pied en France. Et en fait, assez dramatiquement d'ailleurs, on peut indexer le progrès du Front National au progrès de l'immigration halogène en France. Je veux dire que ça traduit l'invasion. C'est un thermomètre de l'invasion, c'est pas du tout un thermomètre de la résistance à l'invasion. C'est assez effrayant, mais c'est comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, toute la ligne idéologique fondamentale a été foutue aux chiottes. Donc, ils sont antiracistes, très clairement. C'est pas juste... parce que c'est souvent... D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Vous savez, il y a eu... chez Hanouna, il y a eu une émission dégueulasse. Là, le juif a mis en scène toute une série de bougnoules et de nègres pour dégueuler la France était le raciste. C'est-à-dire que la France est complètement envahie. Il y a des attentats djihadistes. Il y a du pognon de... Ah, qui arrose tous ces parasites. On a parlé des hôpitaux psychiatriques. Tu vois. Question, en 2020, la France était le raciste. Est-ce que vous avez l'impression de vivre dans le Troisième Reich, monsieur Dupont? Tu vois, bon. Et donc là-dessus, dans cette ambiance-là, Marine Le Pen a tout balancé. Hein. Et elle reprend à son compte toutes ces conneries. Durant cette émission, ils ont délégué leur arabe là sur place pour vendre le baratin antiraciste. Hanouna a dit, en gros, il a dit « Mais monsieur Messia, est-ce que vous êtes un peu l'arabe de service du FN ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un double discours ?» Et non, 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 il n'y a pas de double discours. Non, le RN, c'est Jean Messia. C'est ça. Le remplacement national, c'est Jean Messia, voilà. Le parti national en France est incarné par un Égyptien. Voilà, c'est l'idée nationale en France, des Égyptiens, voilà, bon. Il n'y a pas d'arnaque, c'est le fond et la forme, voilà. Bon, c'est vrai qu'il reste quelques dizaines de millions de Gaulois qui sont un petit peu assiégés, qui se disent, bon, bah, on fait avec ça, mais on aimerait bien voir autre chose. Pour le coup, cette faillite sonnerait un peu, pour Paras et Moras, comme une divine surprise. Hein. Moi, j'aimerais bien que le Front National fasse faillite. Hein. Je vous le dis franchement. Hein.
Ouais, pareil, ouais. Ça, on et gagnerait donc, du temps.
Comme, on respirait un
comme
peu.
Comme je te disais en préambule de l'émission, je pense que ça n'arrivera jamais que la puissance publique...
Oui.
L'État, en dernier ressort, viendra au secours de son meilleur...
de son fusible, hein, c'est tout.
Oui, de son fusible. C'est-à-dire que même les journalistes du système s'accordent à dire que le système ne tient plus que parce que il y a Marine Le Pen en face. C'est-à-dire que il y a quelqu'un dans un parti national dont le nom est Le Pen, et Le Pen, c'est, voilà, ça a une certaine marque méchant, donc ça ne passera jamais, donc ça tient là-dessus. Donc tant qu'il y aura Marine Le Pen qui sera là pour faire tenir cette fausse opposition, ben le système pourra perdurer, et donc Marine Le Pen sera... forcément, en dernier ressort, tu auras, au nom de la pluralité des opinions, etc., même si elle n'est pas entièrement dans les valeurs de la République, hein, ils sortiront une espèce de pile-poule, comme ils ont l'habitude de le faire, mais au nom de la pluralité, etc., on nous dira qu'il va falloir éponger les dettes de cette alcoolo-tabagique.
Au nom de la démocratie.
Mais oui, voilà, c'est absolument impossible qu'il laisse Marine Le Pen dans une situation où elle disparaisse.
Bah, le RN,
moment où elle va menacer de disparaître, un pont d'or va lui être offert.
Voilà, oui. C'est quoi l'alternative? Se retrouver dans un deuxième tour avec Macron-Mélenchon? Et si Mélenchon passe?
Mais ça serait plus quoi? Mais non, ça serait plus drôle.
Ah, le front clair, là.
Ah non, mais moi j'aimerais la France-Venezuela. Moi je préfère ça 100 fois, je veux dire.
C'est plus rigolo, c'est sûr.
C'est beaucoup plus drôle. Ce
qui va être drôle surtout, c'est qu'il pourra pas tenir ses promesses. Que là, tout l'électorat de gauche va se rendre compte que le père Mélenchon, il fait ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire se foutre de leur gueule. Et là, les gens pètent un plomb.
Moi, je pense
Marine Le Pen ne peut pas tenir ses promesses non plus. Hein.
Alors,
voilà.
D'accord, mais le problème, c'est que Marine Le Pen, tout en étant une femme de gauche, ayant ratifié toutes les saloperies idéologiques du système, passe dans l'opinion publique pour être peut-être pas une femme de droite, mais une femme nationaliste ou défendant des idées à caractère nationaliste ou identitaire, etc. Ce qui fait que la grande différence, si c'était Mélenchon qui accède au pouvoir, bon, on n'est pas dans cette configuration, je veux dire, mais si c'était le cas, c'est que les idées qui seraient discréditées, c'est les idées nationalistes. Alors qu'elle ne jouerait pour rien dans l'affaire, en fait. Il y aurait une aspiration nationaliste dans le peuple, mais à aucun moment ça ne serait mis en pratique, mais elle serait quand même discréditée. C'est ça la grande menace. Alors que si vous foutez Mélenchon, il va mettre des idées cosmopolites de gauche, il va essayer de courtiser les bougnoules, ça va durer 6 mois, il va foutre le pays en faillite, enfin ça serait génial, enfin je veux dire ça partirait dans tous les sens. Les gens qui seront un peu mous là, vous voyez, centre droit, ils savent pas trop et tout machin, ils deviendraient vraiment durs quoi, tu vois, ils viendraient plutôt vers nos idées, ça serait vraiment positif. Moi je ne vois pas. Si le RN était véritablement un parti nationaliste, ça serait différent. C'est pas le cas. Donc, je ne vois malheureusement que des côtés négatifs. Pour rebondir sur ce que tu dis, cher Derek, pour noter l'escroquerie, tu dis, voilà, le système va faire une rallonge, on va lui sauver le truc, ben, on va bon an mal an, on va bricoler un machin, et on va maintenir son parti à flot, est-ce qu'ils vont changer le nom, le truc, là, bon, elle va quand même rester là. Au nom de la République, de la diversité des opinions, des partis en République, etc. T'as raison, je pense, mais avant d'enchaîner en disant maintenant qu'on a remis à flot le navire RN, faisons un front républicain contre lui parce qu'il faut faire barrage aux ennemis de la République.
Oui, bah c'est ça, c'est le cirque républicain. Quoi, c'est,
voilà.
C'est ça, hein.
Donc bon, qui d'autre là-dessus ?
Le RN est le principal pilier de la République actuellement.
Bien sûr.
Bah c'est le repoussoir.
Pour les gens qui aiment le roman 1984, on le cite à tort et à travers, c'est le Goldstein en France, quoi. Voilà. C'est le
Exactement.
Faux opposant.
C'est le démon qu'on sort, quoi. Bien sûr. Bon, on va voir hein, pour le succès. Vous pensez que Marine Le Pen va réussir à écrémer du pigeon avec sa souscription ? Un petit peu, je veux dire,
en
mais est-ce que vous...
sûrement.
Non, est-ce que vous pensez que ça va être un succès, je veux dire?
Non. L'État finira par filer du fric.
Alors, oui, quand on dit l'État, les gens qui nous écoutent, ils diront...
Oui,
l'État... Non,
ça veut dire
vous oui. allez devoir donner du fric. En plus de tout le reste. Hein.
Pour changer.
Oui, bon, vous avez déjà les hôpitaux psychiatriques, chers auditeurs, à renflouer, mais vous avez aussi le RN à renflouer. Mais en même temps, ça vaut le coup, parce que avoir des Égyptiens qui t'expliquent que c'est un parti antiraciste, chez Hanouna le juif, ça vaut le coup. Moi, j'ai envie de payer pour ça, tu vois. J'ai envie de sentir que le pognon, il est utilisé utilement, tu vois. Ça me branche. Alors, messieurs, on a, du coup, l'assimilation vers Saint-Gétorix, Mamadou le Gaulois, Omar Sy... chef des Lemovis, comment dirais-je, et j'ai envie de vous dire, Jamel Debbouze, à l'obroche d'honneur.
Ouais, tournevis, la trébate.
Attention, Jamel Debbouze, très connu à l'île de la Réunion.
Ah oui, oui.
C'est vrai, il a une histoire...
Il a tué un petit Maoré réunionnais, je crois. Hein.
Des problèmes de train, de transport en commun, peut-être.
Oui, c'est ça. Une histoire de blousons qu'ils voulaient s'accaparer.
Oh non, les Arabes, ils volent jamais les blousons des autres, c'est pas vrai.
C'est des clichés, ça, c'est des amalgames.
Ouais, c'est carrément bidon, quoi. On sent toute la jalousie, quoi, tu vois. Ouais, bah bon, voilà. Bon, bah Omar Sy, après le docteur Nock... Je l'attends dans le rôle de Vincent Nétorix, quoi. Attention, hein, vous pensez que vous voyez... Vous avez vu, là ? Le prochain Astérix et Obélix, c'est Gilles Lelouch, hein.
C'est le juif, hein, donc.
Un gros séfarade.
Bon. Là aussi, les inconnus étaient en avance, hein, avec en une scène ou je ne sais qui.
Là, ah bah on arrive là-dessus.
Alors on y arrive Fulbert, c'est la prochaine rubrique, tu vas voir.
Ah celui que j'ai pas regardé.
Alors rubrique numéro 4, les amis, le
sale Andersen, le viking.
Le sale juif de la semaine. Kirk Douglas. Certains d'entre vous ne savaient même pas qu'il était membre du peuple élu, c'est bien dommage. De son vrai nom, Issur Danielovitch. Hein, Danielovitch, hein, c'est un juif ashkénaze de Russie. Très croyant. Très pieux. Qui affectait de pratiquer son judaïsme. Et qui aussi, bah, comme tout juif pratiquant, avait des usages un peu moins connus du grand public. Hein, il était plus connu pour ses rôles. Hein, il a joué notamment le rôle d'un viking, je crois. C'est ça, hein.
Andersen le viking, c'est les inconnus, voilà, c'est ça quoi.
Ceci étant dit, j'accorde un petit peu, il avait un phénotype assez blanc, disons, voilà, ce qui pouvait un petit peu tromper, voilà, enfin tromper les moins observateurs, hein, parce qu'il y a quand même un faciès, je veux dire.
Mais
il y avait du slave quoi, on voyait que ses ancêtres rabbins avaient planté quelques esclaves slaves, du coup.
Quelques chiksa.
Voilà. Alors, messieurs, le Huffington Post, attention, hein, l'article suivant, hein, c'est pas la presse extrême droite. Hein. Le Huffington Post, pourquoi certains préfèrent honorer Natalie Wood que Kirk Douglas? L'homme à la fossette sur le menton n'est plus. Ce mercredi 5 février, l'acteur américain Michael Douglas a annoncé la mort de son père, Kirk Douglas, monstre sacré de Hollywood, disparu à l'âge de 103 ans. Pour le monde, il était une légende, mais pour mes frères et pour moi, Joel et Peter, il était simplement papa, souffle son fils de 75 ans. Depuis, les hommages pleuvent, le gratin du cinéma pleure son étoile. Il a gardé son charisme de star de cinéma jusqu'à la fin de sa vie merveilleuse, confie Steven Spielberg au Hollywood Reporter. 103 ans sur cette terre, ça sonne bien, c'était chouette de traîner avec toi, a tweeté Danny DeVito, tandis que Mark Hamill se rappelle lui d'un homme inoubliable et d'une icône incroyable. Mais voilà, quelques heures après l'annonce de son décès, un autre nom émerge sur les réseaux sociaux, celui de Natalie Wood, l'interprète de Maria dans West Side Story, retrouvée morte, noyée à l'âge de 43 ans en 1981, aurait été violée par un célèbre acteur quand elle était adolescente. Un peu plus jeune d'ailleurs. Même si elle n'a jamais levé le voile sur le nom de son agresseur, celui-ci a été rendu public en 2012 par le blog Crazy Day Nights, site obscur connu pour dévoiler les pires secrets des célébrités. Il s'agirait donc de Kirk Douglas. C'est ce que de nombreux internautes ont tenu à rappeler sur Twitter ce même 5 février. Je vais rejoindre la tendance qui consiste à honorer aujourd'hui Natalie Wood, qui a survécu à un viol à l'âge de 16 ans. Donc ça c'est un tweet, un autre tweet, j'aurais souhaité que Natalie Wood vive encore aujourd'hui pour assister à ce moment, donc à la mort de Kirk Douglas. Pour certains c'était à 15 ans, pour d'autres à 16 ans. Les faits se seraient, eux, déroulés au printemps 1954. Enfant star, dès l'âge de 9 ans, la jeune Natalie Wood aurait été invitée par une grande personnalité de Hollywood à passer une audition dans sa chambre d'hôtel au château Marmont. Apprend-on donc sur le blog qui cite nommément Kirk Douglas, un récit que l'on retrouve également dans un podcast de 2018 avec Lara Wood, la sœur de l'actrice, intitulé « Fatal Voyage, The Mysterious Death of Natalie Wood », sans donner le nom de l'agresseur cette fois-ci. Il n'y a pas eu de démenti d'ailleurs. À l'hôtel, l'acteur lui aurait tendu un verre d'alcool. Il lui aurait alors expliqué avoir un faible pour les jeunes filles, je cite. Ce après quoi il aurait brutalement jeté l'adolescente sur le lit et l'aurait agressé sexuellement de longues heures durant. Si tu en parles à quelqu'un, ce sera bien la dernière chose que tu feras de ta vie, l'aurait-il menacé selon Crazy Day and Nights. Les amis de la jeune femme à qui elle se serait confiée quelques années plus tard racontent que sa mère l'aurait découragée de porter plainte. Elle craignait que cela nuise à la carrière de sa fille. Kirk Douglas, alors au sommet de sa carrière, était considéré comme l'un des acteurs les plus en vue d'Hollywood. Cette agression, Natalie Wood ne s'en serait jamais remise, selon ses proches, l'actrice de La Fureur de Vivre aurait passé des années de thérapie à travailler dessus. Elle pouvait frissonner dès qu'elle entendait le nom de son agresseur, pouvant également lire dans le billet du blog accusant Douglas. Ce dernier n'a, lui, jamais reconnu les faits, évoquant n'avoir longtemps été qu'un simple coureur de jupons.
L'affaire était connue de tous, mais le nom de son agresseur, un mystère. Natalie Wood n'a jamais publiquement évoqué Kirk Douglas. Personne, à part ses proches, ne savait qui était ce célèbre acteur auquel elle faisait parfois référence, jusqu'au jour où, en 2012, le blog en question, Crazy Day and Night, dévoile le nom de l'icône de Hollywood. Aujourd'hui, il est toujours en vie et tient à peine le coup, mais ceux qui connaissent la vérité espèrent et prient encore pour qu'il pourrisse en enfer pour l'éternité. Que toutes ses bonnes actions et ses dons ne masqueront jamais la vérité, écrit la source anonyme de l'article en question. Et qui conclut, quand le moment sera venu et que l'acteur et superstar Kirk Douglas mourra enfin, des hommages et des distinctions lui seront rendus. Souvenez-vous simplement que c'est un monstre. Il ne s'est jamais repenti, jamais excusé, il n'a jamais montré aucun chagrin pour avoir détruit la vie d'autrui, en particulier celle de cette jeune actrice, Natalie Wood. Il faut aussi préciser que Kirk Douglas a été cité dans une affaire de meurtre, de disparition, en tout cas non élucidée, d'une jeune fille de 27 ans en 1948. Là encore, une piste qui n'a jamais rien donné, mais le nom de Kirk avait été retrouvé dans les écrits de la jeune fille. Qui traîne dans le milieu du showbiz, qui avait connu l'acteur aussi sur des plateaux de cinéma. Voilà, disparition, interrogé par la police... ça n'avait mené là non plus à rien. Donc il y a des mystères qui restent entiers comme ça. Et comme vous le savez, hein, les juifs dans le cinéma n'abusent jamais des actrices.
Non. Hein, ça... Oui, enfin, ce juif-là, bon, il est particulièrement répugnant dans le sens où je sais que quand il était à Hollywood, il engageait des acteurs communistes. Déjà, bon, Hollywood.
Oui, Juifland.
Oui, c'est juif, c'est Yiddishland. Hein. Donc lui, il ne rechignait pas à passer outre c'était pas un embargo, mais oui, il y avait de ça.
La lutte anticommuniste de Marc Carty, quoi.
On mettait les communistes de côté. Hein,
à raison.
Dans les rôles. À raison. Les communistes qui se trouvaient très souvent des juifs, d'ailleurs. Hein. Mais donc lui, il a joué Spartacus. Je vous laisse peut-être apprécier le parallèle avec les révolutions spartakistes.
Oui, tout à fait, bien observé. Hein,
c'est des esclaves qui se rebellent contre
l'ordre romain.
C'est toujours très bon. Enfin, bon, il a choisi ses rôles. Andersen le Viking, le Viking, hein, les Vikings, donc. Il a singé l'arrière dans ce film-là. Mais voilà, c'est vraiment Spartacus où là, on te salope la civilisation occidentale, pour le coup, hein, la vraie, pour te foutre de l'agitateur youtre au milieu qui vient te donner le vrai, le bon et le beau.
Alors, il y a une histoire là-dessus, parce qu'il faut comprendre d'où vient Kirk Douglas, donc Issur Danilovitch. C'est un juif qui vient de Russie. Oui, c'est un juif qui vient de Russie, et beaucoup de juifs ont fui la Russie tsariste au 19e siècle pour rejoindre les États-Unis. Et il y avait beaucoup de ces gens qui étaient des membres du Bund, organisation révolutionnaire socialiste juive, dont le but était le renversement de la Russie tsariste pour y établir un ordre révolutionnaire juif, ce qui adviendra d'ailleurs avec les bolcheviks. Mais au XIXe siècle, c'était le Bund. On va retrouver d'ailleurs beaucoup d'anciens Bund, membres du Bund, chez les bolcheviks et plus généralement dans le mouvement révolutionnaire communiste international. Et notamment lors de la formation de l'Internationale communiste après 1918, donc après la Révolution rouge. Et très vite, tout de suite, en 18-19, à travers tout le monde, sur toute la planète, mais aux États-Unis, les communistes, enfin les juifs, qui sont à l'international étant gérés par Zinoviev, le juif Zinoviev depuis Moscou, il va immédiatement démarcher ses cousins à New York, qui sont autant de juifs du Bund, pour monter le Parti communiste américain. Donc ça fait le lien avec ce que tu dis, mon cher Derek, c'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si quelqu'un comme Kirk Douglas protège les communistes qui sont dans les années 50, 40 et 50, qui sont essentiellement des juifs, surtout à Hollywood. Donc la cinquième colonne est en marche.
Et ces gens-là vont monter, les juifs de New York plus particulièrement, qui viennent de la Russie, vont monter les bases du Parti communiste américain et du communisme américain, tout simplement. À tel point que le journal de ce qui est alors le Parti communiste américain, qui va naître d'une scission, en fait, il y avait un mouvement socialiste déjà assez établi aux États-Unis, il va y avoir une scission en 18-19, à la faveur d'agitations au sein de groupes syndicaux, notamment de femmes juives, des ouvrières juives de la région new-yorkaise, qui vont faire sécession, sur ordre de Moscou, hein, bien sûr, du rabbinat moscovite rouge. Et là, il va y avoir la publication du premier journal communiste des États-Unis, donc du Parti communiste des États-Unis, et l'organisation est tellement juive qu'il n'y aura pas de journal en langue anglaise avant le milieu des années 20. Le journal est intégralement publié en yiddish aux États-Unis. Le journal du Parti communiste américain, durant les toutes premières années de son existence, jusqu'au milieu des années 20, sera intégralement publié en yiddish et non pas en anglais, en plein américain. Donc ça, c'est l'univers. Et c'est de cette émigration-là que provient Issur, hein, dit Kurt Douglas. Voilà, donc c'est de cet environnement-là qu'il vient. Il y a un moment aussi, je ne sais plus exactement dans quel ouvrage de Rissen c'est cité, il cite ce passage que j'avais trouvé particulièrement marquant, c'est peut-être dans Psychanalyse du judaïsme, sinon c'est peut-être Le fanatisme juif, c'est un des deux ouvrages, où il raconte l'anecdote justement du viol. Je pense que c'est de cette jeune actrice. Et du témoignage qu'elle a donné, mais je peux me tromper, dans lequel, Douglas viole, on parle de viol, hein, on parle pas d'une relation consentie, non, c'est un viol, dans lequel Douglas fait référence à sa judaïté pendant le viol, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, alors ça fait quoi de te faire baiser par un juif, etc., voilà, c'est ça, Douglas. C'est ce type-là. Donc, c'est dommage, je n'ai pas la référence exacte, mais c'est dans un livre de Rissen qu'il avait trouvé, etc. Donc, vraiment, je vous envoie tout ça sur ces. Je vous envoie vers les bouquins de Rissen. On peut peut-être poser la question à Rissen, il y répondrait. Voilà. Donc, voilà, juste pour parler donc du sale juif de la semaine, auquel, par ailleurs, on a rendu toute une série d'hommages, etc., parce que ça a été un grand acteur. Ceci étant dit, il peut par ailleurs être un bon acteur. Hein ? Je veux dire, bon. C'est pas interdit, mais il y a une glorification, un embellissement de la réalité de ce qu'est le Yiddishland hollywoodien, toujours, systématiquement. Et ça fait quand même bien écho avec l'affaire Weinstein, parce que la grande différence, c'est qu'à l'époque, tout le monde fermait sa gueule, il n'y avait pas les grands médias, tout était bouclé. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les témoignages, on peut quand même faire savoir les choses, et donc les chicsas peuvent se mettre à table et dire, bah voilà, j'ai été consommé à ce rythme-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui acceptent de baiser pour avoir des rôles, hein. faut pas se mentir, hein. C'est à mon avis d'ailleurs la grande majorité, mais il y a aussi des nanas qui veulent pas et qui se font violer. Voilà ce que je voulais dire. Quelqu'un veut-il dire quelque chose d'autre là-dessus?
Gandalf, si je puis me permettre, bon, effectivement, on a parlé du père. Mais le fiston, c'est pas mal non plus,
c'est notre ami mal.
Michael Douglas.
Pas mal.
Parce que notre ami Michael Douglas a épousé en seconde noce une certaine Catherine Zeta-Jones.
Oui.
Du Pays de Galles.
Bon. Et cette charmante Catherine Zeta-Jones, qui heureusement avait une tête bien faite, a exigé que ce brave garçon passe dans un centre médical spécialisé pour qu'il arrive à se guérir de courir après tout ce qui portait un jupon possible ou imaginable.
Ah oui, 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 je me rappelle de cette histoire. C'est quoi le traitement?
Je sais pas, je suppose qu'il a dû voir des psychiatres, des...
Non, je crois que parmi le traitement, il fallait avoir des rapports sexuels réguliers, hein, je crois. Je crois que c'était un truc comme ça. Hein.
Je sais plus, mais la nana, avant de signer son contrat de mariage, ça s'est fait, parce que bon... La famille Zeta-Jones, c'est pas des pauvres non plus, hein. Ils sont pas à l'aide sociale, les Zeta-Jones. Et en fait, la nana, elle a exigé, grosso modo, le type, maintenant, s'il regarde une nana dans la rue, elle est en droit de divorcer dans la seconde.
Ouais, mais il est toujours avec, mais elle a été intelligente, tu vois. Elle a été intelligente. Elle a su piéger le juif. Le fils de Douglas, d'ailleurs, est un...
La famille Zeta-Jones, je ne sais pas s'ils sont Youp ou pas. Hein.
Je pense que c'est... Non, c'est des Gallois.
Non, c'est des Gallois. Les...
Ah, des Gallois. Ouais. Tu as une espèce de phénotype comme ça, des Gallois qui ressemblent à des Italiennes. Ouais. Des Italiens bruns, très bruns, blancs, ouais. Très blancs. C'est assez, ouais, c'est un phénotype assez particulier.
C'est les populations, c'est des restes de populations avant l'invasion aryenne de l'Antiquité.
Ouais, les
populations mégalithiques, très exactement.
Ça ressemble beaucoup aux vieilles, enfin, en tout cas, Catherine Zeta-Jones ressemble beaucoup aux vieilles souches corses.
Oui.
Ils sont pas des Italiens arrivés sur la côte, c'est vraiment la vieille souche corse, quoi. Mm. Les femmes très blanches, avec des cheveux noirs, même quand elles sont très vieilles, qui n'hésitent pas à te donner un coup de couteau quand ça les arrange. Mais voilà, c'est un petit peu ce physique-là. Quoi. Mmh.
Alors le fils de Michael Douglas, donc le petit-fils de Kirk Douglas, est un tolard invétéré, drogue à gogo, ultra tatoué de partout, phénotype de juif incroyable, je veux dire vraiment la face du juif, incroyable. À quel point le masque perdure, quoi. Fulbert, peut-être sur Kirk Douglas, quelque chose, t'as envie de... Qu'est-ce que ça t'inspire, cette... Pas sa mort, hein, mais je veux dire...
Bah, sa mort...
Rien de spécial, ouais.
Fou complètement.
Bah, bien sûr.
Moi, je fais quelques liens. Hein. D'abord, je m'aperçois qu'en tant que juif, il crève à 103 ans. Ce qui me fait penser à pas mal de survivants qui ont vachement bien survécu et dont on en tue, il y en a un qui apparaît pratiquement tous les jours. Mais outre cela, tu as fait plusieurs liens intéressants. Tu as parlé, je crois que c'est toi ou d'Eric, je ne sais plus, du maccartisme, hein, qui était la chasse aux communistes invétérés dans le milieu hollywoodien. D'une part, tu as donc cité les origines de Dembski, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle, son
Dembski, famille, hein.
Qui était donc un juif sorti du ghetto. Eh bien, je me dis que les bolcheviques américains, parce que je crois qu'on peut les aussi les appeler comme
ah
ça,
oui.
Hein, donc les communistes juifs américains, ils ont survécu. Ils ont
oui.
survécu.
Oui.
Ils ont échappé en bonne partie au maccartisme. À sans doute d'autres actions par la suite moins connues, mais je n'en dirai rien, je ne les connais pas. Pour arriver aujourd'hui, ils ont réussi à s'infiltrer dans la gauche américaine, c'est-à-dire le Parti démocrate, et aujourd'hui on retrouve un de ces bolcheviques, c'est Bernie Sanders.
Oui, et je crois qu'il faut aussi voir une chose, c'est que ça explique en très grande partie l'extrême hostilité contre la Russie de Vladimir Poutine, de la part des États-Unis d'Amérique et des médias judéo-américains, et de la pression constante qui est mise sur Trump pour qu'il conserve une posture très agressive à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine. N'oubliez pas que Poutine, sans avoir purgé malheureusement la Russie des Juifs, a quand même écarté d'un certain nombre de postes toute une série de Juifs, à commencer par Boris Berezovsky, comme vous le savez, qui a dû ensuite rejoindre la Grande-Bretagne. Et que les Juifs pensaient, avec la chute du communisme, dans les années 90, avec Yeltsin, pensaient pouvoir mettre la main définitivement sur la Russie, et la découper, et se la partager. Un peu sur le modèle ukrainien, hein, comme vous l'avez constaté. Or, c'est pas ce qui s'est passé. Et on voit la haine, vraiment la haine viscérale des Juifs pour la Russie, mais qui n'est pas exclusivement limité à Vladimir Poutine. On ne peut pas comprendre cette haine médiatique, cette haine politique, cette haine géopolitique qui s'exprime par différents canaux, on ne peut pas la comprendre si on n'inscrit pas dans la longue durée, et si on ne voit pas que derrière tout ça, il y a la haine du juif de Russie, arrivé à New York à la fin du 19e siècle, qui vient du Bund, et qui a infiltré ensuite toute la haute société américaine, les universités, etc., Hollywood, et voilà, on y est, et c'est ça.
Absolument. Moi, j'aimerais bien exposer aussi quelque chose d'autre lié à tout ce que tu as dit. C'est cette notion qu'on commence à voir apparaître un peu partout, d'État profond américain. En fait, moi, je pas spécialiste, mais je crois que l'État profond n'est pas seulement américain. L'État profond s'est installé probablement déjà avant la Seconde Guerre mondiale, mais disons surtout après 1945, s'est installé dans tous les pays contrôlés par les États-Unis, c'est-à-dire l'ouest de l'Europe, ce qui explique son comportement actuel, ce qui explique une certaine politique, un certain comportement de l'Union européenne, ce qui explique, tu l'as dit, une fois que l'URSS s'est effondré, ce qui explique la guerre entre Poutine et les oligarques, qui a donc Poutine qui a nettoyé véritablement, en tout cas partiellement, la Russie, suffisamment que pour avoir un peu de confort politique, dirais-je. Et tout ça est relié. Moi, je pense que cet état profond, comme je l'ai dit, s'est installé partout où le régime, je me permets le mot, américain, l'ancien régime américain, c'est-à-dire avant Trump, a pu installer ses agents, ses organisations, etc. etc. Tout ça, à mon avis, c'est lié. Et on assiste aujourd'hui à un affrontement que certains résument en disant, voilà, il n'y a plus de clivage, véritable clivage gauche-droite, mais un clivage globaliste, nationaliste, et je pense que l'aspect globaliste de ce clivage, c'est justement la survivance, le développement de tout ce que nous avons parlé précédemment, lié indirectement, enfin directement ou indirectement à la mort de, enfin pas la mort, mais à Kirk Douglas.
Oui, disons que c'est quelqu'un qui symbolise très bien tout cet environnement culturel et historique.
Absolument, parce que cette histoire de sexualité débridée de certains juifs, on la voit aux États-Unis, mais elle commence aussi à percer chez nous, même s'il y a de la résistance, ça commence à apparaître. Il y a, finalement, je me demande parfois si les livres du docteur Risson, comme tu l'appelles, ne sont pas appelés à être plus lus dans le futur. C'est une question que je me pose.
Oui, non, mais ça nous permet de voir ça, et puis comme c'est un acteur qui, parce que bon, Kirk Douglas, si vous avez 20 ans aujourd'hui en France, Kirk Douglas, j'ai jamais entendu parler de cet acteur, sauf si vous êtes un cinéphile et que vous avez regardé des anciens films, mais sinon vous n'en avez jamais entendu parler, hein, et pourtant c'est quelqu'un qui a compté, et surtout qui a une descendance, hein, voilà, et qui représente quand même beaucoup de choses, donc voilà. Donc ça permet, en fait, juste comme ça, avec une petite nouvelle dans la rubrique nécrologique, ça permet en réalité de creuser, de trouver d'autres choses, des ramifications qui nous amènent jusqu'à aujourd'hui. Mais la haine juive à l'égard de la Russie, j'ai envie de dire de la Russie éternelle, est aussi intacte qu'il y a 150 ans. Ça n'a pas changé. Et dites-vous bien, parce que ces juifs ne varient pas, c'est la même chose vis-à-vis de la France. Ça, les gens doivent le comprendre, hein. Je veux dire, quand vous entendez les juifs en faire des caisses sur la République, s'ils parlent de République, c'est pour ne pas parler de France. Et on s'entend. Il faut bien comprendre ça. Les Juifs opèrent très nettement la distinction entre la République et la France. Et ils ont très bien choisi leur parti. Ils savent très bien que la France, bah, c'est les Français, c'est le peuple français dans sa continuité historique, avec tout ce que ça suppose, comme en Russie. Et eux, ce qu'ils aiment, c'est le régime actuel, c'est le régime en place, le régime plutocratique, cosmopolite, qui leur a donné les places de commandement, parce qu'aujourd'hui, c'est les Juifs qui occupent les rôles de chef en France, et qui commandent, et ils savent très bien à qui ils le doivent, et à quel régime ils le doivent. Donc dites-vous bien que cette haine est absolue vis-à-vis de la France. Vous imaginez bien vis-à-vis de l'Allemagne, j'ai pas besoin de vous faire un tableau, pas besoin de vous faire un dessin. C'est pour ça que ces Juifs, constamment, vis-à-vis des autres nations, arrivent en position de racketteurs. Vous avez qu'à remarquer, ils arrivent systématiquement. Vous nous devez ça.
Exactement.
Vous devez ça. Voilà. Alors bonjour, vous êtes de quel pays? Bon, bah, vous, ah oui, en telle année, oui, voilà. Vous nous devez ça. Voilà.
D'ailleurs, c'est assez piquant ce que tu as dit avec le mot république. La France, la république, le français, le républicain, etc. C'est que avec l'Union soviétique, qu'avaient fait les bolcheviks, donc les communistes juifs? Ben, ils ont remplacé le russe par le soviétique. Et en France, on remplace le français Ben, par le républicain, ou la république, je trouve ça piquant.
Oui, mais toujours avec un langage un peu habile pour maintenir au niveau de la population la confusion. Parce qu'évidemment, dans la tête d'un Français, la République, la France, c'est la même chose. Oui, mais pas eux non. Eux savent faire la distinction. Et c'est comme ça que des milliers de pauvres gars vont aller se faire trouer la peau en 14-18 pour défendre ces gens-là, alors que les intérêts de la France, je sais pas trop où ils étaient.
Exactement.
Ben c'est ce qui a généré l'idée de... Ben je crois que c'est Maurras hein, qui faisait la nuance entre le pays réel, c'est-à-dire la France, et le pays légal, la République.
Qu'on peut toujours faire, enfin même pays réel, pays ethnique en fait, parce que ça se passe au niveau racial en réalité, hein, il faut parler clair. Ce que ne faisait pas Maurras, enfin je veux dire, il le faisait plus ou moins, mais enfin c'était pas articulé dans ces termes-là et pas conscientisé à ce point-là. Mais il parlait de métèques, de trucs comme ça, mais aujourd'hui c'est encore plus clair. C'est encore plus clair et c'est étendu à la totalité du monde occidental, c'est ça quoi. Et même au-delà. Et même au-delà. Mais, quand on parle de la Russie, c'est pas le monde occidental, et pourtant la Russie est soumise au même traitement, quoi.
Ah oui, d'ailleurs, à propos de ce que j'expliquais tout à l'heure. J'aurais peut-être dû préciser ceci. Je parlais des pays contrôlés par l'ancien régime américain. Certains pourraient dire, ouais, mais enfin, les Américains n'ont jamais contrôlé la Russie. Bien si, ils l'ont contrôlé entre la chute de l'URSS et l'arrivée de Poutine, c'est-à-dire sous la présidence de Helsinki, qui a ouvert le pays à tout.
C'est ça. C'est tout à fait juste.
Pour revenir sur les Juifs, il faut bien comprendre que c'est le peuple de la haine, hein. On s'intéresse un petit peu à la religion juive, mais tout revient constamment à ressasser des anciennes guerres, qu'elles soient antiques ou plus récentes. Même dans leurs fêtes, dans leurs célébrations, il y a énormément de fêtes religieuses qui sont liées soit à des massacres qu'ils ont subis, soit à des massacres qu'ils ont perpétrés. Ils sont constamment en train de ressasser ça. C'est vraiment le peuple de la haine, hein.
Oui, c'est tout à fait. C'est le peuple du ressentiment, le peuple de la vengeance, le peuple de la haine, de la colère, de l'intolérance à la frustration, de la non-maîtrise de l'activité sexuelle. Ça nous amène sur le sujet de la première partie de l'émission, mais psychiatrie peut-être, musulmane, sémite, tout ça est un peu confus, mais je crois qu'on y retrouve un
psychiatrie du désert.
Oui, tout à fait.
Il faut voir quand même la proportion, c'est-à-dire que c'est un truc, ça se transmet sur des millénaires. Ça fait, je sais pas, on va dire, ça commence, disons, en l'an 500 avec le Talmud, hein, leur truc, ça fait 1500 ans qu'ils rongent leur haine. Et ça se transmet de génération en génération.
Je pense que tu peux remonter un petit peu avant, mais bon.
Oui. Ouais.
Bah, c'est la culture de la vendetta, hein. C'est la culture tribale de la vendetta. Alors, c'est pour ça que nos auditeurs doivent comprendre ça, parce que si vous n'avez pas de culture historique, les Juifs en ont. Ils en ont une. C'est-à-dire que, et en plus, elle est sélective. Hein. Et ils ne retiennent que ce qu'ils veulent bien retenir. Mais ils retiennent ça très très bien. Donc, quand vous dites, oui, moi, l'histoire, ça ne m'intéresse pas trop, le passé, ouais, c'est pas très intéressant. Intéressez-vous à votre histoire, intéressez-vous à l'histoire de votre peuple. Vous apprendrez beaucoup de choses, ça vous permettra de remarquer des constances, ça vous permettra aussi de remarquer qu'il y a toujours plus ou moins les mêmes gens à faire les mêmes choses, et vous saurez où vous situez. Parce que ceux qui sont en face connaissent leur mémoire tribale, n'en oublient rien, qu'ils soient en Russie, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Allemagne, qu'ils soient en Amérique, ils n'en oublient rien, pas une miette. Hein. Même la Perse, on parle souvent dans l'émission de Pourim c'est la Perse. L'Antiquité, il y a des millénaires.
Ça a 3000 ans. Quoi.
Les mecs sont encore en train de ressasser là-dessus tous les ans. On parle de ces populations-là. Hein. Donc quand les mecs viennent te parler de philanthropie, de droits de l'homme, d'harmonie entre les peuples, etc. Oui, bien sûr. Oui. Non, les mecs sont
d'antiracisme, ils ont le culot de propager l'antiracisme, alors que c'est une des religions parmi lesquelles j'ai étudié qui est la plus raciste.
C'est la plus raciste. Probablement une des plus racistes existantes. En fait,
même la plus xénophobe, si je puis me permettre, parce que la xénophobie, c'est le rejet de l'autre. Et les Juifs rejettent tous les autres, sans exception. Ils ne supportent qu'eux-mêmes.
Et encore, ils ne se supportent pas.
Oui, c'est vrai.
Ils se supportent pas. À raison, hein, mais je veux dire.
Ils se supportent, ils se violent entre eux. Bon, bref.
Disons qu'ils se supportent en entretenant, disons, une paranoïa dans leur communauté, et c'est cette paranoïa des autres, cette peur des autres qui arrive à les faire à peu près tenir ensemble, quoi. Mais s'il n'y avait pas les antisémites, je pense qu'ils se seraient entretués il y a longtemps.
Bah, c'est peut-être une stratégie, je sais pas, de réfléchir. Mais comment dire? Oui, non, mais ils se haïssent tellement en fait que le seul argument qu'ils ont pour tenir ensemble, c'est de dire que les autres sont pires à l'extérieur, en fait. Voilà, c'est.
Ben, ils le disent, il y a les juifs et l'humanité. Ben, nous, on dit il y a l'humanité et les juifs, quoi. Mais tu parlais de Pourim, il y a Yom Kippour aussi qui est pas mal, hein. Le grand pardon, là, où on va chez le rabbin pour se faire pardonner. Et là, je crois que je ne fais pas erreur sur ce que j'ai lu, pour se faire pardonner toutes les fautes que l'on va commettre dans l'année qui vient.
Oh, mais ils savent compter, je sais pas.
C'est quand même extraordinaire.
Je sais pas si vous voyez la différence chez les chrétiens catholiques. Vous allez vous faire pardonner les fautes que vous avez faites et vous vous engagez à pas recommencer. Là, c'est l'inverse. Ça change beaucoup de choses, hein.
Ah oui.
Tu demandes l'autorisation à truander tout le monde. C'est magnifique, je veux dire. Enfin, c'est à l'image, hein, de cette population, hein. Ah ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, ils connaissent pas les Juifs.
Oui, ils connaissent rien, ils sont là, ils errent, ils savent pas où ils sont.
Voilà, ils ont lu Libération, ils ont
Ils
vu un
sont
type dans le
nés,
monde, voilà.
leur mère les a chiés quelque part, par hasard, ils savent pas pourquoi. Enfin, c'est vrai que oui, y a pas de. Enfin, les Français et les Occidentaux en général ne sont plus rattachés à leur passé. Ils sont là, ils sont nés après la victoire de l'humanité face à la barbarie, ça ils le savent, mais avant ils ne savent pas trop, il y avait des rois, les types ils portaient des couronnes, ils s'habillaient bizarrement, c'est tout ce qu'ils savent, hein. Ça va pas plus loin. Hein.
Ouais, ça va pas plus loin, ouais. La République existait du temps de Cro-Magnon, voilà. Enfin,
Oui, ouais, bien sûr.
Non, mais c'est de ce niveau-là, hein, non, mais c'est de ce niveau-là, hein, je veux dire.
Et avec les
Mais il y
dinosaures,
avait des
ouais.
rois, mais c'était des tyrans, ils exécutaient des gens avec des pouces en l'air,
Ouais. Non, non,
Les
c'est.
tyrans qui tenaient leur pouvoir des T-Rex aussi, ça en même temps. Ouais.
Alors du coup, bah, puisque écoutez, on parle de tyrannie, de Moyen Âge, de religion, de confusion généralisée, bah, je vous propose de passer au deuxième topic, deuxième sujet de notre émission. On va parler blasphème, on va parler sondage, on va parler
Ah.
opinion publique française, hein, parce que la France change, la France évolue. Alors messieurs, donc c'est le sondage finalement qui a été le moins commenté de la semaine passée. C'est pas tellement étonnant en réalité. C'est un sondage qui a été commandé par Charlie Hebdo. Donc tout le monde peut commander un sondage, hein. Auprès de l'IFOP. Et le sondage en question tourne autour des questions de laïcité, comme Charlie Hebdo le sous-entend. Hein. Vous savez bien que Charlie Hebdo vient de la tradition anarcho-gauchiste et se retrouve dans la dimension laïcarde par opposition traditionnelle et historique, si vous voulez, de la gauche au catholicisme. L'émancipation telle qu'elle est dite, présentée et décrite du carcan. Là aussi, je reprends les termes du système, mais vous comprenez, du carcan catholique ou chrétien pour libérer l'individu des dogmes, etc., et pouvoir enfin jouir pleinement de sa liberté de réalisation. D'accord, très bien. Donc, ils sont très soucieux de ces questions de laïcité ou d'athéisme militant même. Et sur la question de l'islam, bon, je leur reconnais au moins cette qualité-là. C'est d'être assez vindicatif au point de se faire assassiner, hein, comme vous le savez, en 2015, puisque toute la rédaction de Charlie Hebdo a été pratiquement toute a été calibrée à l'AK-47 par deux frères Beurre, alors qu'ils avaient passé toute leur vie à défendre, hein, puisque Charlie Hebdo était une publication ultra-immigrationniste, ultra-antiraciste, anti-lepéniste au dernier degré, lepéniste du temps de Jean-Marie Le Pen, hein, donc le Front National historique des années 70 et 80, pas le machin mariniste. Donc voilà, donc ces gens se posent des questions, ils se posent des questions probablement aussi sur leur place à eux dans la France nouvelle, dans la France diverse et de plus en plus islamique. Et alors, on a des réponses tout à fait intéressantes à toute une série de questions. Bon, comment dire, le point de départ du sondage, c'est le rapport à Mila. Bon, Mila, on en a parlé dans les émissions précédentes, on ne va pas y revenir. Je pense que tous nos auditeurs connaissent cette jeune femme de 16 ans. C'est une jeune fille lycéenne de 16 ans qui revendique une sexualité, enfin qui se revendique lesbienne, et qui, au cours d'une discussion sur un réseau social, j'ai oublié lequel, reçoit les demandes insistantes de la part d'un certain nombre de maghrébins à caractère sexuel, qu'elle refuse, et au bout d'un moment, elle donne son point de vue sur l'islam, et elle dit « l'islam, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le cul ». Bon. Elle est passée à la télévision chez Barthès, sur Quotidien, pour s'expliquer de ses propos. Elle a dit qu'elle maintenait, tout en disant qu'elle avait peut-être été, elle avait peut-être choqué des musulmans qui font que vivent leur religion, les musulmans modérés, vous avez compris.
Oui, précision, entre-temps, elle a été récupérée par Richard Malka au niveau de...
Bah, l'avocat de Charlie Hebdo.
Défense, l'avocat de Charlie Hebdo, et qui est...
Membre éminent de la communauté, effectivement.
Oui, qui est un avocat juif et qui est aussi l'ex-mari d'Elisabeth Lévy, hein, tout en passant.
Oui, à droite, gauche...
Mais Elisabeth Lévy, elle est de droite. Extrêmement encadré et oui. Très, très bien dans une certaine nébuleuse qu'on connaît.
Occidentaliste, dirais-je.
Occidentaliste, c'est vrai.
Enfin bon, je suis pas là pour... c'est une gamine de 16 ans, bon, elle est dépassée par les événements, je le comprends bien.
Tout à fait.
Ceux qui la récupèrent ne sont pas du tout dépassés.
Eux ne sont pas dépassés, non. Ils savent ce qu'ils font.
Et ils sont très en sécurité aussi, je tiens le souligner. Alors, ouais. Donc, du coup, c'est l'excuse pour Charlie Hebdo de lancer un sondage. Et, indépendamment de la qualité de ceux qui posent, enfin, qui commanditent le sondage, on a des réponses intéressantes. Alors, je passe sur tout ce qui concerne Mila. Qui se retrouve dans Mila, on s'en fout. L'adhésion au droit au blasphème. C'est une question, et voici comment elle est formulée. Question de l'IFOP. En France, la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse autorise l'expression de critiques, y compris outrageantes, à l'encontre d'une croyance, d'un symbole ou d'un dogme religieux. Personnellement, êtes-vous favorable à ce droit de critiquer, même de manière outrageante, une croyance, un symbole ou un dogme religieux ? Réponse absolument incroyable, mais pas tellement incroyable pour les plus endurcis d'entre nous. 50% des gens ne sont pas favorables au droit de blasphémer en France. Pas du tout favorable, 17%. 17% de gens pas du tout favorables au droit de blasphémer. Plutôt pas favorable. Là, c'est 33% des gens qui sont plutôt pas favorables. Et inversement, tout à fait favorable au droit de blasphémer, c'est 21%. Des gens, et plutôt favorable, 29% des gens. Alors, ça, c'est la population générale en France, hein, vous avez bien compris. 50-50. 2020, 50-50 pour le droit au blasphème. Hein. Réponse des musulmans. Sans surprise aucune. Hein. 66% des musulmans sont opposés, bien sûr, au droit de blasphémer. Hein. Donc ça, c'est une très écrasante majorité. Dans la minorité, on trouvera peut-être Bilal Hassani et ses cousins, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et alors, aussi très intéressante, réponse des homosexuels. Intéressant. 66% des homosexuels, on a parlé un petit peu, sont favorables au droit au blasphème. Alors, eux, ils sont pour, ils sont très très pour. En sachant que le rapport de force démographique n'est pas tout à fait le même entre les musulmans et les homosexuels en France. Hein, voilà. Surtout dans la durée. Alors, il y aura d'autres éléments, mais ça nous donne déjà une base de discussion. Alors, je dois dire, je dois confesser que même si je savais que... bon, d'abord, je tiens à faire litière, de mon point de vue, hein, je tiens à faire litière d'une légende urbaine qui voudrait que en Europe et dans les démocraties d'Europe de l'Ouest, la liberté d'expression soit un intangible respecté par tout le monde. C'est faux, bien évidemment. Je veux dire, la liberté d'expression, c'est un mot abstrait dont beaucoup de gens parlent, mais que personne ne pratique. Vous voyez ? Et voilà, il y a... Voilà, les gens sont, par exemple, contre la guerre aussi. C'est, bon, les États démocratiques font des guerres sans arrêt. Bon, c'est à peu près la même chose. Donc, pourquoi je dis ça ? D'abord, parce que la liberté d'expression en France a, depuis longtemps, été abolie. Depuis 1972, en France, et la mise en place des lois de lutte dites contre les discriminations, il est interdit de dire toute une série de choses.
Oui, déjà, je reviendrai peut-être à la loi Marchandeau.
La loi Marchandeau aussi qui existe.
Qui a fait que...
Avant la guerre, 1939.
Avant la guerre, hein, on avait eu... Je crois que c'est un éditorial de... comment s'appelle-t-il ? Brasillac, de mémoire, sur la question de singe.
Oui. Et en fait, il avait la loi Marchandeau, le décret Marchandeau interdisait de critiquer les habitants de la France. C'était ça la formule. Oui. Et du coup, évidemment, la presse antisémite avait rebondi en disant, en désignant les juifs du nom d'habitants. Il parlait des habitants. Et comment, ce que je trouvais assez bien senti. Et donc, en 72, rebelote, je ne vais pas revenir sur l'origine de ces lois, ça nous amènerait trop loin, même s'il y aurait beaucoup à dire.
Et non, depuis... C'est un breton, c'est ça,
oui.
Pleven, hein,
Pleven, ouais. Oui, voilà, mais qui était en fait une loi qui était concoctée depuis très... Enfin, bref, je ne vais pas revenir là-dessus, ça serait trop loin. Et ensuite, cascade, parce que là, ensuite, loi Guesso, ensuite, loi Taubira, loi Lelouch, loi Avia, bon, voilà, ça poursuit. Donc, la liberté d'expression n'existe pas, premièrement. Le droit de blasphème, là aussi, je veux quand même faire litière d'une légende urbaine. En France, il est interdit de blasphémer. Il y a des croyances et des dogmes que vous ne pouvez pas insulter. La plus grande croyance de notre époque étant bien évidemment la croyance dans l'existence des chambres à glace, homicides d'Adolf Hitler. Adolf Hitler ayant probablement des crises de démangeaison les week-ends et sentant un besoin irrépressible de gazer avec de l'insecticide des juifs acheminés.
Oui, d'ordonner le gazage de millions de juifs, télépathie. Hein, c'est...
Voilà, sans document.
Voilà, tout
sans plan.
Meeting of mind.
En se permettant quand même parfois aussi des originalités comme les plaques électriques de cuisson, les saucisses de juifs gazés.
Attention. Volkswagen a été récemment condamné par les Américains pour avoir tenté de gazer l'intégralité du monde.
Ah oui, pas faux ça, pas faux. Oui, il y a peut-être une extension intéressante, effectivement. Alors bon, bref, vous avez compris, il y a des choses qu'on peut pas dire. Donc, tout ça pour dire que voilà, quand on dit « Ah mais le droit de blasphème en France, vous rendez compte quand même, quel recul, etc. » Non. Les Juifs se sont déjà taillés la part du lion, les races de métèques se sont déjà taillées la part du lion, et en fait, au bout du bout du bout du bout du bout, effectivement, ils restent dans un coin... cette idée que peut-être on peut critiquer un peu les religions. Chose qui avait été admise à une seule condition, c'est qu'on dégueule sur l'Église catholique. Ça plaisait beaucoup aux juifs et aux communistes, mais l'époque a changé, la démographie française aussi, et désormais, c'est un autre type de population qui est sensible à la critique de la religion. Vous avez bien compris de laquelle je veux parler. Alors, ça maintenant, bon, comme tout le reste, est interdit, bah, finalement, il faut que ça saute aussi. Hein, quelque part, il faut être cohérent. Et ce que nous dit ce sondage, c'est que 50% des Français, bah, finalement, ils sont assez cohérents, quoi. Ils disent, bah oui, on n'a pas le droit de parler sur tous les autres sujets, on voit pas pourquoi, finalement, sur l'islam, on a le droit de parler librement. Je veux dire, bah, non, faut fermer sa gueule. Voilà. Alors, est-ce que vous, ça vous a surpris? Ou au contraire, vous dites, bah non, ça tombe sous le sens, et en fait, voilà quoi, qu'est-ce que vous pensez de ce résultat?
J'aimerais faire un petit commentaire là-dessus. Sondage extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. C'est un peu la continuité, comme tu disais, Gandalf, finalement, de bah, on doit fermer notre gueule, bah là, on ferme notre gueule un peu plus. Bon, alors, à titre personnel, hein, moi, je suis opposé au droit de blasphème, mais certainement pas pour les mêmes raisons que les sondés. Hein. Je ne reconnais pas le droit des fausses religions à pouvoir insulter le Christ. Tu vois. C'est pas du tout le registre dogmatique des sondés. Eux, c'est pas du tout leur délire. C'est quoi quelles sont les deux raisons principales pour lesquelles les sondés se sont exprimés ainsi? La première, bah, c'est que ce sont des bougnoules maintenant. Hein. Les Français sont de plus en plus des bougnoules. Donc comme ça, c'est réglé. Donc c'est forcément musulmans. Hein. Et puis la deuxième raison, c'est que les Français ont abdiqué, tout simplement. C'est-à-dire que les vrais Français, comme le disait finalement, je crois que c'était Porovitch la semaine précédente, il y a une islamophobie, une vraie islamophobie en France C'était MacDav, excusez-moi. C'est-à-dire que les gens ont peur de l'islam. Donc du coup, vu qu'ils sont vraiment islamophobes, eh ben, ils ont dit, bon, bah, on va... Oh, tant pis, la liberté individuelle, eh ben, j'en fais plus état, et parce que je veux survivre, et du coup, bah, je ferme plus ma gueule. Je trouve ça extrêmement triste, cette abdication philosophique qui en dit long finalement sur le courage ambiant. Je pense que ça va changer. Sincèrement, je pense que ça va changer parce qu'en fait, les musulmans, de la même manière que les juifs n'ont pas de limite, je pense que les musulmans aussi n'ont pas de limite. Et tant qu'ils n'auront pas installé une charia complète, ça ne va pas s'arrêter et à un moment donné, les Français en auront marre. Voilà.
Ouh, ouais, enfin, en auront marre, ça reste à voir, mais. Oui, ce que ce sondage traduit, c'est la conversion, enfin la conversion.
Oui, à l'islam, oui.
L'acceptation.
Oui, voilà.
Non, oui, l'acceptation du droit islamique.
Oui, en France. Oui, bien sûr.
Alors que ce soit d'une part par la présence de musulmans qui eux-mêmes acceptent la loi divine, et d'autre part les dhimmis, hein, les blancs, qui par peur ou par par amour des gens marrons, enfin, peu importe, hein, en fait, leur raison, ont accepté le fait qu'il ne faut pas toucher au poil de cul d'Allah, hein, fût-il tripoté par une jeune fille de 16 ans. voilà. Donc, c'est une jeune fille de 16 ans peut mettre en danger la religion de l'absolu.
Voilà une religion quand même qui est assez fragile, puisque finalement une lesbienne de 16 ans peut faire trembler ses fondations quand même. Hein. Et il faut la faire taire, quitte à l'égorger.
Mais bon, bien qu'étant une religion assez fragile, elle est encore moins fragile que ce peuple de plus en plus merdique qui est le peuple français. Hein. Écoutez, quand j'ai vu ce sondage, j'ai acté de l'avènement de la France comme étant partie prenante de Dar al-Islam. C'est une terre islamique.
L'État islamique a gagné.
Je voudrais essayer de défendre les Français, parce qu'il faut quand même se mettre à la place des gens. À peu près une à deux fois par mois, ils entendent parler qu'il y a un espèce de fou qui a essayé de poignarder des gens en tenant des propos plus ou moins cohérents sur l'islam. Bon, c'est un message qui nous est envoyé régulièrement par les médias, ils en parlent. Donc, je pense honnêtement, les gens ont intégré effectivement la peur. Hein. Ils ont vraiment peur de se faire poignarder, de se faire défigurer à l'acide. Et donc forcément, ils capitulent. Hein. C'est vraiment la trouille. Hein.
Ouais. Le terrorisme a marché,
c'est la politique de la trouille.
Oui, c'est la définition du terrorisme. En fait, pour le coup, c'est le terrorisme a gagné. Alors... Je parlais un peu avant de ça avec Porovitch, mais vous savez, en 2015, lors de l'attentat de Charlie Hebdo et de la grande mobilisation de Charlie Hebdo, moi, dans l'air, il y avait un malaise. Je pense que dans l'émission, on en a parlé à plusieurs reprises. Ça sentait, pour le coup, au sens propre, ça sentait le sapin. Ça sentait le sapin, ça sentait les funérailles. C'était des funérailles, d'ailleurs, mais je veux dire... ils ont prétendu que c'était un grand moment de mobilisation pour la liberté d'expression, je suis Charlie. Non, moi, j'y ai vu... un enterrement en grande pompe pratiquement d'un pays entier, quoi. Et c'était un enterrement, c'était pas le début quelque chose, c'était un enterrement. Et pour le coup, on y est, 5 ans après les attentats de Charlie Hebdo, par un sondage, d'ailleurs c'est assez ironique, commandé par ce même journal, on peut discuter sur quel coup... Quel... on peut dire, est-ce que c'est 48, 49 en réalité? C'est un sondage. Moi, pour moi, c'est un sondage qui traduit quelque chose de très réel en réalité. Je ne crois pas au sondage erroné, à l'erreur, etc. Pas du tout. Simplement, les gens essayent d'interpréter ça en disant, mais c'est pas possible, les gens sont pas religieux en France, les Français, ils sont pas du tout croyants, etc. Et c'est Borowicz qui donne la clé d'explication. C'est-à-dire que si vous allez essayer de trouver l'explication de ce résultat par l'adhésion à un dogme religieux, vous allez rien comprendre, à l'exception des musulmans, j'entends. Ou des nègres qui se coagulent avec, quoi, et de quelques gauchistes. C'est pas ça, c'est la trouille. C'est-à-dire que ce qui explique la réponse à 50% en plus des métèques, c'est que les gens ont pigé que c'est dangereux. C'est dangereux pour la paix civile, c'est dangereux pour la sécurité publique, donc il faut fermer sa gueule. Donc quand les gens ils disent « je suis pour qu'on arrête d'autoriser des gens à blasphémer », c'est pas pour dire intellectuellement, philosophiquement, je suis contre le fait d'écorcher un dogme religieux ou une croyance. C'est pas ça qu'ils disent. Ils disent, actuellement, c'est dangereux de le laisser faire, je veux qu'on empêche des gens de le faire, parce que moi, ma gamine, quand elle sort, j'ai pas envie qu'elle se prenne un éclat de bombe artisanale, parce qu'il y aura un bougnoul qui aura pété un câble, parce qu'il aura vu sur un réseau social quelqu'un déblatérer sur l'islam. C'est ça le message sous-jacent en réalité. Et tout ce que les mecs disent « je suis pas mis là », à l'exception donc des comment dirais-je, des bougnoules, hein. Bon, les bougnoules, on sait pourquoi ils disent ça. Mais je veux dire, tous ceux qui sont parmi les blancs en train de dire « je suis pas machin », c'est que les types sont en train de se coucher. Ils disent « voilà, faites-lui fermer sa gueule, elle va nous foutre dans la merde ». Mais finalement, c'est le même argumentaire qui a été utilisé contre toutes les critiques à l'immigration ces 30 dernières années. Faites taire ces mecs, le jour où l'extrême droite, ou ce qu'on appelle l'extrême droite, ou les identitaires, machin, fermons leur gueule, tout ira mieux. C'est-à-dire que, voilà, péter le thermomètre, les bougnoules se calmeront. Voilà. Non.
Mais il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas plus petit bourgeois que la Vox Populi. La Vox Populi, oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Ne pas faire de vagues, c'est tout.
Bien sûr.
Elle veut 100 euros de plus sur son SMIC.
En ce moment, c'est les retraites plus déjà.
Oui. Bon, c'est pareil pour les gilets jaunes. Si tu veux, dès qu'ils ont obtenu 100 balles, type, ils sont rentrés chez eux.
Non, mais on peut tous les faire. Hein. Je veux dire, c'est 100 euros sur son RSA, sur son SMIC, sa retraite. C'est
100 balles.
Je veux dire, la mentalité bourgeoise, du pauvre jusqu'en haut de l'échelle, c'est la même.
Tout à fait. Alors, messieurs. Pour corroborer ce qu'on dit, il y a aussi une réponse par sexe. Alors j'y viens. Donc le sondage offre donc un carottage de l'opinion extrêmement détaillé sur cette question. Et alors on a de tout. On a les tranches d'âge. Alors les tranches d'âge, ça c'est effrayant. Donc sur la question du blasphème, le droit au blasphème, êtes-vous pour ou contre le droit au blasphème? Alors en France, comment dire, c'est 59% des 18-24 ans qui sont contre le droit de blasphémer. 60, c'est-à-dire 6 France, 6, 18, c'est chez les jeunes français, avec tout ce que ça veut dire, hein. Interrogés, 6 sur 10 de 18-24 ans répondent qu'ils sont contre le droit au blasphème.
Non, mais justement, tu dois préciser ça, Gandalf. Il faut bien se rendre compte que c'est sur le type de Français, à savoir que nous avons de plus en plus de personnes qui sont des descendants d'immigrés de 3e, 4e, 5e génération.
Ah oui, non, mais bien sûr.
C'est-à-dire qu'ils n'ont de Français qu'un passeport.
Certainement, bien sûr. Mais je veux dire, quand on regarde la proportion d'immigrés, même avec l'immigration, enfin avec ceux qui ont été régularisés, qui ont la nationalité depuis 2 ou 3 générations, je veux dire, on est quand même sur un rapport de 6 contre 4. Dans cette tranche d'âge, je veux dire, la nouvelle génération, quoi. Bon, ça c'est juste l'âge. Mais le sexe m'a beaucoup intéressé. Chez les femmes et les hommes. Donc, alors, chez les hommes, c'est très intéressant. 62% des hommes sont pour le droit au blasphème. Donc les mecs veulent pouvoir blasphémer. Donc ce qu'on remarque, mais là il y a une continuité, quoi. Qui ne craint pas le risque et parce qu'il préfère sa liberté, c'est l'homme. Intéressant. Les femmes, accrochez-vous, les femmes, à 62%, sont pour l'interdiction du blasphème. Donc c'est pratiquement...
Mais c'est tout à fait normal.
Oui, bien sûr, c'est pratiquement l'inverse. C'est pratiquement l'inverse. Vous avez... Donc vous avez, voilà, vous avez...
Certaines ont déjà donné leur cul au vainqueur.
Voilà.
C'est pas vraiment ça, Derek, excuse-moi. Le principe de la nana, c'est qu'elle va jamais affronter le problème de front. Elle préfère plier et laisser venir. Et c'est tout l'éternel problème des gonzesses, c'est que si tu dois compter, ne fût-ce qu'au niveau des élections, si tu dois compter sur un vote féminin, t'es sûr de te planter.
Oui. Mais il y a plusieurs choses. Alors, il y a la dimension sécuritaire. On a parlé de la sécurité. Je pense que les femmes ont très bien compris la dimension sécuritaire. Elles sentent bien que les bougnoules ciblent les femmes. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Elles savent. Elles savent aussi que ce sont des gens violents. D'accord ? Mais là où les gogos commettent une erreur à droite et à gauche, c'est de dire « Ah, bah, sur cette base-là, elles vont s'insurger. » Non ! Ce sont des femmes, elles se couchent. Pour la plupart, il y a des exceptions. Mais pour la plupart, c'est « Ah bon, d'accord, les bougnoules sont violents, les bougnoules ne supportent pas qu'on dise ça, d'accord, bon, bah, on n'en parle plus. » Voilà, ça, il faut le comprendre. Deuxième point, et toi, tu dis, à propos de ce qu'a dit Derek Diabolix, qu'il a tort, je pense, alors c'est pas vrai pour tout, mais il y a une part non négligeable de gonzesses en France qui lorgnent sur le chibre musulman. Faut pas perdre ça de vue. Il y a un côté, comment dirais-je, aphrodisiaque à la violence. C'est un peu le mystère, mais c'est vrai, ça existe. Et en tout cas, on voit le déséquilibre. Alors là, je me permets, enfin bon, vous pouvez, je sollicite, hein, vous pouvez réagir, bien sûr, mais ça me fait quand même marrer parce que quand on voit, là encore, certains mouvements, certains partis. Ou un bruit de fond qu'on va retrouver dans certains médias anti-islam, etc., qui essayent de nous présenter la résistance des femmes contre le voile, etc., alors là, au revoir. C'est-à-dire que non, ça n'existe pas. Ils sont en train de nous sortir des beurrettes de luxe, là, qu'ils font passer sur, chez justement des chirurgiens plasticiens juifs, hein, comme la Zineb, machin, etc., pour essayer de te vendre la... la passionnaria maghrébine en lutte contre ses frères, et parce que voilà, il y a une immigration arabe qu'on arrivera à avaler, etc. Non, c'est complètement bidon. Toutes les gonzesses vont se coucher devant la violence islamique. Plus il y aura de bougnoules énervées, plus elles vont se coucher. Elles ne vont pas se battre pour le droit de ne pas porter le voile, etc. C'est un fantasme d'homme. C'est un fantasme d'homme. C'est une critique d'ailleurs qu'on retrouve. Ourya Boutedja, des indigènes de la République, le dit à juste titre. Le délire, j'enlève le voile de la beurette pour la rendre sexuellement disponible, c'est un trip de baiseur de beurette. C'est un trip de baiseur de beurette. Ça n'existe pas chez les femmes. Les femmes s'en foutent de dévoiler des moukères. Elles en ont rien à branler, c'est pas leur problème. Et si Mokhtar s'énerve parce qu'on a dit un propos de travers sur Allah, on n'en parle plus, on étouffe. On interdit la critique, voilà, si c'est le prix à payer pour la sécurité. Les femmes ont peur pour leur sécurité physique. Il y a des gens, dans nos milieux, qui ne comprennent pas ces réalités élémentaires-là. La réalité qui...
C'est éternel. Tu as la trouille pour tout. Tu as la trouille pour le gendarme, tu as la trouille pour le parquet, tu as la trouille pour absolument tout. C'est phénoménal.
Oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas les déterminismes raciaux, les déterminismes biologiques, les déterminismes sexuels qui les nient, et qui se mettent à fantasmer...
Tout à fait d'accord.
Voilà, qui se mettent à fantasmer et à nous parler d'une réalité qui n'existe pas. Et ce que je trouve très, très intéressant dans ce sondage, qui vient de l'extrême-gauche en plus, je veux dire, ça vient de Charlie Hebdo, ça va contre leur narratif en plus à Charlie Hebdo, parce que les Charlie Hebdo passent leur... Zineb vient de chercher Charlie Hebdo. Ça vient de chez eux. Hein. Donc, leur narratif à eux, c'est non, il y a des femmes qui veulent s'émanciper, refuser la tyrannie de la religion. La réponse à leur sondage, par l'IFOP, c'est non, non. Les deux tiers des gonzesses acceptent l'interdiction du droit au blasphème. C'est contre-intuitif au possible. Et on y est. Qui veut me dire quoi que ce... Enfin, rajouter quelque chose là-dessus. comment vous voyez les choses, en fait, finalement? On pourrait peut-être poser la question comme ça. Maintenant qu'on voit cette tendance, donc 50% des Français, excusez-moi, qui acceptent l'interdiction... Bon, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est bon, on y est. Dans 10 ans, il y a une loi, quoi. Dans 10 ans, il y a une loi. Et encore, je fais encore, et encore. Bon, voilà. C'est vraiment pour être très conservateur. Hein. Dans 10 ans, il y a une loi, ok, on rajoute ça dans un... Vous savez, un amendement... loi 1881, il est interdit de critiquer de manière outrageante. Ils mettront peut-être pas l'interdiction formelle de critiquer un dogme, mais ils diront oui, si c'est fait de manière outrageante, de manière à blesser une commune, voire ben, pile-poule, voilà. Comment vous voyez les choses maintenant, je dirais d'ici 10-20 ans, au rythme où ça va? Parce que très clairement, il n'y a plus d'opposition.
En France, hein. Tu veux dire en France?
En France. En France. Oui. En France.
Pour moi, tout ça, c'est secondaire. Et bon, je vais me répéter, mais bon, je vois pas de changement direct sans de crise financière, en gros. Voilà. Donc malheureusement, les Français vont continuer à décliner petit à petit de plus en plus de liberté individuelle ou collective, parce que ils arrivent quand même à bien vivre et basta. Voilà. C'est très simpliste comme vision des choses, j'en conviens. Mais tant que les frigos seront pleins, les Français bougeront pas.
Je suis assez d'accord avec Pierrot. Je pense que la seule chose qui peut réveiller l'instinct de conservation, c'est vraiment une crise économique qui mette vraiment en danger de famine ou en danger de très grande précarité des gens, massivement, et pas individuellement,
pandémie,
comme c'est le cas aujourd'hui.
La pandémie, coronavirus.
Oula, c'est pas le coronavirus qui va tuer qui que ce soit. Hein.
Malheureusement.
Non, si vous voulez vous faire peur... La grippe aviaire, voilà.
C'est-à-dire une petite parenthèse dans ma parenthèse. Mm-hmm. On a eu le mouvement des Gilets jaunes, donc qui a muté, hein, comme vous l'avez vu. Mais oui. Dans le mouvement des Gilets jaunes, on n'a pas vu de manifestants. Donc on a vu des manifestants violents de temps en temps, et sincèrement, ça m'a fait plaisir de voir ce réveil, hein, surtout qu'il était collectif. On n'a pas vu de manifestants, par exemple, prendre de fusils pour aller, je sais pas, buter des flics, par exemple. Je dis pas que c'est une chose à faire, je dis qu'on n'a pas vu, d'accord? C'est pas la même chose. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu ça? C'est parce que les gens n'étaient pas désespérés au point de vouloir le faire. Voilà. Et pourquoi ils n'étaient pas désespérés? C'est juste parce qu'en fait, la République gouverne mal, mais se défend bien, tout simplement.
On a quand même vu des préfectures livrées aux flammes. Hein, je veux dire,
Oui, ça, et là j'avoue...
C'est vrai qu'on n'a pas vu d'action vraiment coordonnée, violente contre des policiers et des gendarmes, mais on a quand même vu des trucs quand même très très violents.
Ouais, mais très bien. Hein. J'encourage complètement ce genre de...
C'est quand même crépusculaire comme action, quoi. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu trop tard, et les gens qui ont fait ça sont au bout du rouleau, un petit peu à la fin de leur vie, quoi.
C'est un réflexe de gens désespérés, et j'en parle parce qu'en fait, voilà, on a eu le 6 février 34, on a eu ça récemment, la commémoration, ça m'a fait penser à ça. Effectivement, il y a tout ça est graduel, quoi. Et c'est...
Ouais, mais le 6 février 34, c'était une journée. Là, si tu veux, les gilets jaunes, enfin, je parle pas des gilets jaunes actuels, si tu veux, mais vraiment le pic de fièvre, ça a duré des semaines et des semaines. Bon, il y avait quand même un caractère très différent là-dedans. Il y avait un caractère insurrectionnel. Et le problème, le truc qu'il faut quand même observer, c'est que ça s'est passé dans une France qui est globalement économiquement stable. Alors, il y a des ruptures qui s'opèrent, mais quand vous regardez le niveau de croissance de la France, c'est pas du tout un pays en récession actuellement, j'entends. C'est un pays qui s'endette, c'est un pays qui a une dette importante, etc. Ça, c'est tout ce qu'on voudra, mais ce n'est pas un pays, je veux dire, qui est en mode grec. Donc, quand on voit le niveau de violence avec peut-être 1% de croissance quand ça s'est passé, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si effectivement on rentrait pour le coup dans une véritable récession ou même une dépression économique. Alors, je veux dire, avec un réajustement vraiment brutal, quoi, avec un État qui fait défaut, etc., partiellement ou totalement, on s'en fout.
Ça serait quoi alors? Ça serait une révolution islamique contre
l'État? En fait, c'est ça le truc, c'est que tu n'as pas une grande révolution pour mettre en place quelque chose. Je vois pas ça comme ça. Je vois plus une désarticulation progressive, un dysfonctionnement de plus en plus manifeste, un État de plus en plus paralysé, un dysfonctionnement aussi régionalisé de plus en plus, c'est-à-dire avec un caractère régional de plus en plus marqué, c'est-à-dire des trucs qui vont pas et qui prennent une certaine forme dans une certaine région, mais qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans une autre région, etc. Ouais, c'est ce que je vois, moi. une anarchie de plus en plus prévalente un peu partout, avec notamment la dimension afro-maghrébine et islamique. Voilà. Un peu comme la crise des migrants. La crise des migrants, c'est quand même sidérant quand on y réfléchit, quoi. Je veux dire, c'était un truc complètement impensable. C'est-à-dire que les machins arrivent par bateau, à pied, ils traversent les frontières, les pouvoirs publics, ils sont l'arme au pied, ils réagissent pas. Ils sont complices, bien sûr. Mais ça vient, ça va, t'as la jungle de Calais, j'imagine. Pour que les pouvoirs publics français aient commencé à bouger, il a fallu attendre 2-3 ans, une ville de 10 000, 15 000 métèques, des Afghans, des trucs, en plein Calais, on pouvait filmer ça depuis le ciel, etc. Il n'y a que à partir de ce moment-là que l'État a commencé à bouger un petit peu. Des mecs qui débarquent chez vous, si jamais ils vous gaulent à tenir des propos à caractère raciste, etc., machin. Donc on voit que c'est un système qui est en train de se casser la gueule complètement, mais c'est pas spectaculaire.
On l'a vu aussi avec les zadistes. Ça a traîné des années. Hein. Ils les ont laissés s'implanter, s'organiser, ils montaient des commerces, etc. Enfin, il y avait quand même le début d'une communauté qui se créait. Ils ont laissé faire pendant très longtemps.
Bah, 20 ans.
Gandalf, bon, on se connaît depuis pas mal de temps. J'ai quand même essayé de t'expliquer un truc. Bon, ma famille est originaire de la France. Ça remonte à 1600 et des gnognottes. On va pas se faire un arbre généalogique direct. Bon, il faut bien comprendre un truc. Que ce soit les rois de France, que ce soit la République française à l'heure actuelle, ou avant, peu importe. Le gros problème du peuple en lui-même, c'est malheureux à dire, c'est même à en chialer de désespoir, c'est que tu as affaire à des lâches, à des gens qui seraient capables de vendre leur môme pour pouvoir conserver leur tout petit privilège. Et le problème actuel, c'est que justement, ils sont en train de s'apercevoir qu'ils vont faire de plus en plus de concessions. Et ils les feront, c'est ça qui me tue.
Les concessions, oui, ils les font à l'envahisseur, mais ils ne feront aucune concession, enfin aucune...
Oui, oui.
Ils n'auront aucune espèce de... comment dire... de solidarité avec leurs voisins. C'est-à-dire que je vais niquer mon voisin pour me faire bien voir de la puissance occupante. En l'occurrence,
mais tout à fait, mais
l'islam.
C'est le
ça.
Principe. Il faut. Tu peux reprendre l'histoire de France de zéro à aujourd'hui.
Ah oui,
que ce soit
d'accord.
Les rois de France, que ce soit la République française, c'est le même cirque pour arriver à motiver les gens, pour arriver à leur expliquer qu'il faut voir non pas leur intérêt immédiat, mais l'intérêt général. C'est une gabegie, c'est une perte de temps extraordinaire.
Les types n'arrivent pas à voir leur intérêt commun, donc on a créé l'État, c'est ça quoi le truc. Hein. C'est pour ça que le.
Oui, mais tout le monde, de toute façon.
L'étatisme fonctionne
avec les Français. Non, mais de toute façon, c'est le principe du soviétisme. Parce que France, dernier pays soviétique du monde, hein, peut-être avec Cuba.
Oui, peut-être même le premier. Hein,
oui, peut-être même, oui, sûrement même d'ailleurs.
Oui.
C'est-à-dire que c'est le principe de la déresponsabilisation. C'est-à-dire, tu étatises tout, c'est la faute des autres. Bon, logique de Bougnoul, il n'y a pas que les Bougnoul qui ont cette logique. Hein, je veux dire, c'est la faute aux autres, c'est la faute à la société, c'est la faute à l'État, mais qu'est-ce qu'ils font les gens, etc. Oui, mais qu'est-ce que tu fais toi? Voilà, il y a des gens qui essayent de bouger, mais il y en a aussi beaucoup qui essayent pas de bouger.
On n'est pas assez bien soigné, voilà, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez là.
Prenez les urgentistes.
Il faut plus de moyens. Hein,
prenez les urgentistes, les mecs. Ah, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas de budget. Il n'y en a pas eu un qui a eu les burnes de dire on est saturé de bougnoules et de nègres.
Oui.
T'en as pas eu un. Hey. Donc en fait, quand t'écoutes ces mecs-là, c'est pour ça, moi, il y a des mecs qui disent oh ouais, mais les urgentistes quand même. Non. Non.
Ils aillent se faire enculer tous.
Qu'ils aillent se faire enculer. Pourquoi? Simplement pourquoi? Parce que comme ces mecs n'ont pas les couilles de dire les urgences aujourd'hui, elles ont été complètement dévoyées de leur fonction originelle, et maintenant c'est saturé de bougnoules et de nègres, la moitié bon pour la psychiatrie justement. Alors, comme les mecs n'ont pas les couilles de le dire, et en fait ils bottent en touche en disant bon, est-ce qu'on pourrait doubler les budgets, comme ça on aurait une urgence pour les bougnoules et une urgence pour les gens qui ont vraiment besoin d'urgence, hein, voilà, donc ça va coûter encore une fortune parce que les mecs n'ont pas les couilles. Bon, quand tu rentres dans ce jeu-là, c'est-à-dire que quand tu dis quand tu rentres dans le jeu de ces types qui sont des lâches, qui veulent pas dire les choses telles qu'elles sont, tu t'enfonces encore plus. Donc, moi, quand je vois des gens dire « Oui, mais quand même, tu comprends. » Non, moi, je comprends pas. Non, je comprends pas. Il y a un bougnoule, il y a un problème. On le dit. Si tu veux pas le dire, tu fermes ta gueule.
Oui, ou en tout cas, tu ne demandes pas du fric.
Voilà, tu ne demandes pas du blé aux autres. Déjà, tu vois. Voilà, tu ne demandes pas du pognon aux autres pour régler un problème que tu refuses de reconnaître toi-même. Je veux dire, bon, faut arrêter un petit peu de prendre les gens pour des cons. Et tout est comme ça. Donc, voilà. Et moi, je dis qu'il faut commencer par le commencement. Disons. C'est-à-dire, quand tu vois un bougnoule, tu dis que tu vois un bougnoule. Quand tu vois un bougnoule, tu dis que tu vois un bougnoule. Quand tu vois un nègre, tu dis que tu vois un nègre. Voilà, tu dis pas que tu as vu un pingouin ou un esquimau. Voilà, c'est quand même pas compliqué intellectuellement, je veux dire. Donc c'est par ça qu'il faut commencer. Tant que les mecs seront là, ils auront un flic de la Tchéka dans la tête pour les terroriser en disant oh là là, il faut surtout pas le dire. Bah, écoute mec, cool avec le bateau, qu'est-ce que je te dise. C'est tout. À un moment donné, aide-toi le ciel, t'es drôle.
Oui, ou barre-toi, fais autre chose. Enfin,
ah non, mais.
C'est comme les flics qui se plaignent, voilà, les flics se plaignent.
Tout à fait.
Voilà, ces racketteurs, ces terroristes de la route, qui viennent de se plaindre parce que c'est difficile, nos locaux, il y a des fuites d'eau, etc. Mais connard, tu te remplis au quotidien, tu te bouffes du nègre et de l'arabe à tout bout de champ. Tu n'en parles même pas, rien, que dalle. Bon, ben voilà, barre-toi, deviens un homme libre, deviens quelqu'un qui produit quelque chose au lieu d'être un parasite qui vient de demander du fric. Hein. Arrête d'être une merde.
Et pour rejoindre le truc avec Poro, ce qu'il disait sur les zadistes, parce qu'on passe tout au bougnoule, hein, on passe tout au bougnoule, au jus, allez les gars. Hein. Alors, les zadistes, bon, pareil, des crasseux de gauche. Alors, faites une ZAD identitaire nationaliste, vous allez voir à quelle vitesse elle va être désossée. Hein. Ça va
une
pas
ZAD,
mettre.
ZAD, mais on peut même pas faire des bistrots associatifs.
Exactement. Pétition, député, 100 députés pour la dissolution du bastion social. Des associations, les mecs ont des barres. Toute la représentation nationale, debout, etc., droite-gauche, hein, etc. Je me demande même si le Front National ne s'est pas distingué, là encore. Je ferai pas de procès d'intention, mais je présume que l'intention de cœur y était. Donc, tous ces gens-là, alors, par contre, hein, les bougnoules, les communistes, les gauchistes, les cégétistes, ils peuvent tout faire.
Moi, j'en vois régulièrement des mecs d'extrême-gauche qui sont très très à l'aise dans des canapés, sur YouTube, à faire des appels à la révolution violente contre le régime.
Ah oui, non mais totalement.
Ils sont jamais, mais ils sont pas censurés. Hein. Il y a pas de problème, il y aura pas de procès non plus. Hein.
Même les bougnoules et les nègres, genre les comités Adama Traoré, les trucs comme ça, etc. Les types appellent ouvertement à la guerre raciale. Non seulement ils y appellent, mais ils la font. Quand vous regardez les confrontations avec les flics entre les bandes de nègres à Beaumont-sur-Oise. Et comment dirais-je
Traoré.
Et voilà, là, c'est pas de la théorie, là, c'est pas des appels. C'est de la guerre raciale. Ils tiraient à balles réelles sur les flics. Il y a eu des papiers là-dessus. Ils en ont pas fait beaucoup d'échos médiatiques, d'ailleurs, mais il y a eu des papiers là-dessus. Avec des fourgons qui avaient des trous de 9 mm, etc. Ils ont vraiment essayé d'abattre du flic. D'accord. Bon. Vous voyez la sœur Traoré, qu'on lui ferme sa gueule, sa chaîne YouTube, son truc? Non, elle est à France Inter. Elle est sur France Culture, elle est machin. Mais c'est... Non, il y a que le blanc qui est persécuté en France, c'est tout. C'est une république juive, truffée de nègres, de bougnoules et de toutes les sous-races possibles et imaginables, pour pas parler des gauchistes puants qui vivent de la traite des blancs, hein, en gros, et ces mecs-là, ils ont payé en sur eux. Alors après, effectivement, il y a plein de petits blancs qui rasent les murs, fatalement, parce qu'en plus, quand vous avez votre gueule, vous tombez devant des magistrats, en plus. Donc c'est aussi pour ça, je veux dire, il y a une telle répression. Et bon, c'est quand même pas assez, on va quand même nous coller en plus le délit de blasphème, ça va pas pouvoir dire du mal d'Allah.
Oui, c'est-à-dire que si tu dis que Mahomet était un pédophile qui s'est marié à 6 ans et a bourriqué à 9 ans, Ce qui est tout à fait...
Alors, non, c'est pas lui qui a bourriqué quand il avait 9 ans. Il a bourriqué une gamine qui avait 9 ans.
Il a bourriqué une gamine qui avait 9 ans.
Ouais. Alors, c'est dans le Coran, ça, pour ceux qui nous écoutent. C'est dans le Coran,
oui,
c'est pas...
C'est dans le Coran. Hein, c'est,
ah,
c'est...
Il l'a marié à l'âge de 6 ans et il l'a baisé à l'âge de 9 ans, voilà.
Voilà,
oui, pendant 3 ans, il a tripoté un petit peu, mais sans... Bon, voilà, c'est...
Touche pipi,
voilà, c'est normal, charrer c'est permis, hein, c'est assez particulier.
L'histoire ne nous dit pas s'il s'agissait du courant alternatif ou du Coran continu.
Effectivement, mais...
Oui, et d'ailleurs, donc, la petite s'appelait Aïcha, et moi j'ai vu récemment là, des vidéos de conversion de Kassos, hein, de Kassos.
Ah oui, j'ai vu ça.
À la mosquée Aïcha, à Montpellier. Alors des espèces de trucs là, le fond des chiottes de la race blanche, quoi. Enfin, c'est ignoble. Hein. Et donc à la mosquée Aïcha, donc ce sont les conversions des musulmans Aïcha. Eux, ils viennent là, pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont baisé leur sœur, je sais pas. C'est fort possible. Hein. Ou alors parce qu'ils ont envie de violer, de baiser des gamines. C'est l'islam
Aïcha. Ça existe. Aïcha, hein. c'est pas un tube assez célèbre.
Ah si, Khaled. Khaled qui a eu des petits problèmes aussi.
Oui, bon, t'as pas joué avec sa bite trop souvent, lui aussi?
C'est pas lui qui a tabassé une de ses ex enceintes.
C'est pas chez Mami, non,
hein. Oh, mais bon, c'est bien pas que...
C'est bon, c'est des bougnoules.
Non, mais c'est bien parce que je crois que ce qui est le plus puant dans toute l'affaire, c'est les subtilités rhétoriques et argumentatives auxquelles recourent les putains de gauchistes pour essayer d'expliquer le fait que ce sont des larves qui rampent devant des crouilles, quoi. Je veux dire, les mecs sont là, oui, mais voilà, vous comprenez...
Oui, nous sommes pour la force et la puissance de la République, mais par contre, pour le bien-être de la société, de l'avenir et du progrès, etc., nous ouvrons absolument notre anus pour nous faire féconder, voilà.
Notamment Ségolène Royal, Ségolène Royal, je veux dire, elle a dit quand même c'est inacceptable, etc. Enfin, je veux dire, on voit ça, quoi, je veux dire. Les pires fins de race qui ont été candidates à la présidentielle. Ministre candidate à la présidentielle, enfin, je veux dire. Moi, je suis désolé.
Mais je crois qu'elle s'est faite bourriquer par un bougnoule, hein, après avoir tenu la chandelle de Hollande pendant des années, et avoir commis Thomas Hollande, hein, qui est un crime en lui-même.
Alors,
c'est un crime de guerre. Hein.
Alors, le truc, c'est que c'est incroyable.
T'es marié à une juive.
Ah oui, mais j'ai jamais vu quelqu'un avoir une gueule de rabbin de Pologne à ce point-là. Je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi.
Ouais.
Et il s'est foutu à la colle avec une juive. Ouais, c'est assez logique. Hein.
Enfin, je sais pas, il n'est pas marié. Enfin, je crois pas qu'il soit marié. À un moment donné, il était avec une chanteuse. Bon,
Youpin, ouais. Non, mais c'est bien. C'est
Joyce Jonathan qui est pugé, hein, c'est de l'huile d'olive. Hein,
Mais lui,
c'est jaunâtre, quoi. Hein, c'est, bon.
Non, mais tu regardes le phénotype du mec, il a putain de gueule de rabbin, quoi, bordel.
C'est bien, le jour où il va se convertir, il va pas dépareiller. Hein.
Non, mais je veux dire, il y a un problème.
Non, mais tu rentres pas comme ça.
Phénotypiquement, autant tu vois la mère royale, Ségolène Royal, elle a une gueule de blanche, il n'y a pas de problème.
Mais, elle s'est fait refaire le chicot, par contre.
Mais, oui,
bah, oui, que ce soit Ségolène Royal, qui est fille d'officier,
ouais.
Officier supérieur, hein, ou Hollande, fils de.
Bah, ouais, hein.
Qui était à l'OAS. C'est vrai qu'on se demande ce qui est arrivé, quoi. Il y a eu il a une gueule de, il est racialement normalement il n'y a pas de juif, mais alors il y a pas eu de bol, quoi. Il y a eu un crime quelque part, hein. Peut-être que la mère royale a fait. Je pense pas que.
Bon.
Cambadé.
Mériterait une enquête.
Non, mais. Il y a quand même il y a du diamantaire chez
moi. Ouais, hein, c'est vrai.
Moi, je vois du diamantaire.
Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se sépare?
Sale juif.
Écoute, c'est une... Oui.
Très, très sale juif. Et puis surtout, je souhaite bon courage à notre chère héroïne réunionnaise.
Ah oui, oui, celle-là est à marquer. Hein. Oui. Bon courage à elle. Oui. À la semaine prochaine, les amis.
À la semaine prochaine, à Hitler. Allez.